Depuis 63, au mois de septembre 63.
Et qu'est-ce qui vous a amené
Disons que ça a été par le plus grand des hasards que je suis arrivé ici, parce que chez moi, j'habite à Limoges, à l'entrée du Massif Central, dans la Haute-Vienne, et j'ai exercé le métier d'ouvrier en chaussures, et puis c'est un métier qui nourrit pas son homme, quoi, si vous voulez. Et alors, un jour, il y avait une annonce sur le journal comme quoi il fallait écrire à l'agence Havas d'Orléans pour... il y avait du travail, on demandait des ouvriers spécialisés. Alors, j'ai écrit, et justement, c'était la maison Termor d'ici d'Orléans qui demandait du personnel. Alors, c'est de ce fait que je suis arrivé à Orléans. Alors, évidemment, la différence de salaire était énorme.
Ah oui ?
Par rapport à ce que je gagnais chez moi, quoi.
Voilà.
Ah, c'est oui, j'avais. C'est-à-dire que j'étais professionnel dans la chaussure, quoi. C'était mon métier, j'avais eu mon CAP. Ça faisait 2 ans que je travaillais dans la maison et j'avais 195 francs de l'heure. Puis quand je suis arrivé ici, à ce moment-là, le prix d'embauche, déjà au départ, était de 2,60. Alors cela fait déjà un drôle de bon au point de vue prix de l'heure. Puis alors, je m'y suis trouvé bien, au point de vue travail, évidemment, et puis je suis resté.
Et vous plaisez ici ?
Je m'y plais. Disons que c'est par la force des choses, si vous voulez, quoi, parce que c'est le travail qui m'y fait rester, parce que, au point de vue région, évidemment, je préfère encore la mienne. Parce que ici, c'est une région qui est très jolie, quoi, parce qu'il y a énormément de châteaux, c'est assez touristique, mais je trouve qu'au point de vue paysage, c'est beaucoup moins bien que chez moi. Chez moi, c'est très vallonné, c'est très boisé, il y a énormément de ruisseaux et tout, et puis c'est joli, quoi.
Et vous comptez rester à Orléans ?
Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Là, en ce moment, je suis en train de suivre des cours pour revenir dans mon métier, mais enfin, avoir une qualification supérieure à celle que j'avais. Et à ce moment-là, j'essaierai de rentrer dans une grande usine de chaussures comme Eram ou André, des maisons qui ont des débouchés énormes, qui ont une dizaine d'usines en France. Et à ce moment-là, j'espère trouver une place meilleure que celle que j'ai en ce moment, quoi, si vous voulez.
Vous pouvez retourner dans votre pays même ?
Je pourrais y retourner, mais je ne pense pas que je gagnerai plus, vous comprenez, parce que ici en France, il existe des abattements de zone que l'on appelle. Alors les abattements de zone, vous voyez, Paris c'est la zone zéro, c'est-à-dire c'est l'endroit en France où on est le plus payé. Et puis alors, au fur et à mesure que vous éloignez de Paris, à ce moment vous gagnez moins cher.
Et ça c'est l'effet du hasard ou l'effet d'une... on s'est mis d'accord là-dessus.
C'est-à-dire que c'est une histoire, vous voyez, ça a été décidé il y a très longtemps qu'il y avait des zones. Maintenant, on tend à les supprimer parce que la vie est aussi difficile en province qu'à Paris. Et évidemment, un ouvrier qui travaille à Paris, c'est évident, il a beaucoup de frais, le métro, les déplacements, tout ça. Mais enfin, celui-là qui travaille en province, lui aussi, il a des frais. La vie n'est pas plus chère à Paris qu'en province, ce n'est pas vrai.
Est-ce que ce mouvement général a quitté certaines régions ?
Ah oui, oui, ça c'est typique, parce que regardez, prenez par exemple Orléans, c'est une ville que l'on peut dire que les Orléanais, on ne peut pas dire qu'ils sont introuvables, si, il y en a quand même pas mal, mais enfin disons que c'est très varié, vous avez des gens du Massif Central, vous avez de toutes les régions de France, et puis beaucoup de main-d'œuvre étrangère aussi, portugais, espagnol, et puis algériens. Parce que Orléans, c'est assez près de Paris. Et puis alors maintenant qu'ils commencent à faire la décentralisation, Orléans est devenu une zone industrielle très importante. Vous voyez, les usines de Paris et des environs, pour débloquer la région parisienne qui tend à s'étendre de plus en plus, se décentralisent vers la province. Alors Orléans a été une des régions pilotes, si l'on veut, au point de vue industrie. Alors évidemment, cela a attiré énormément de main-d'œuvre. Et puis, enfin, il a fallu énormément de main-d'œuvre pour arriver à satisfaire les besoins au point de vue personnel.
Il y a énormément de constructions qui sont en train.
Oui, les constructions marchent assez bien dans la région. Le bâtiment va très bien. La ville s'agrandit de jour en jour. Il y a des. comment dire, des petites bourgades qui étaient autour aux environs d'Orléans. Maintenant, on ne peut plus faire la différence parce que c'est tout construit. Orléans est devenue vraiment une ville très étendue et très peuplée.
Et vous avez des amis, des camarades qui ont quitté le pays aussi comme ça?
Ben oui, au fur et à mesure des fois que l'on va travailler dans une usine, comme ça on rencontre des gens qui sont de notre région ou même un peu plus loin, mais enfin on se rend compte que les gens de la province, il y en a énormément à Orléans.
Merci.
C'est-à-dire que les gens préfèrent s'arrêter à Orléans plutôt que d'aller à Paris, parce qu'à Paris c'est très difficile d'y vivre évidemment, ou alors il faut avoir des connaissances pour trouver un logement, parce que c'est le logement qui est le plus difficile à trouver, puis les logements sont très très chers. Alors tandis qu'à Orléans, malgré tout, disons que la vie est moins difficile qu'à Paris, parce que vous n'avez pas toute cette circulation, vous n'avez pas le métro, vous n'avez pas ces déplacements de traverser toute une ville, de mettre des fois trois quarts d'heure ou une heure de métro ou de train de banlieue pour aller travailler. Vous êtes quand même assez près relativement de votre lieu de travail.
Oui. Et les logements sont assez faciles à trouver?
Ils sont assez faciles à trouver. Tout ça dépend. C'est toujours, on revient toujours à la même chose, c'est toujours une histoire de prix. Selon que vous pouvez mettre assez cher, vous avez un logement assez facilement, mais si vos moyens sont limités, c'est très très délicat à trouver.
On n'est pas obligé d'acheter pour se loger?
Non, non, on n'est pas obligé d'acheter pour se loger. Maintenant, c'est une loi qui est sortie il n'y a pas tellement longtemps que l'on peut devenir propriétaire de son logement dans un HLM. On peut devenir propriétaire, mais alors il faut compter à peu près une vingtaine d'années.
Oui.
Alors évidemment, souvent de fois, 20 ans, cela donne à réfléchir. À ce moment-là, on préfère emprunter à des organismes autorisés, puis à ce moment, se faire construire sa maison,
oui,
qui demandera à peu près le même délai, et à ce moment-là, on sera chez soi, tandis que dans un HLM, vous serez chez vous, mais vous serez propriétaire que de votre logement, et vous serez toujours en HLM.
Oui.
Vous n'aurez pas, disons, la tranquillité et puis la liberté que vous avez quand vous êtes dans votre maison.
Oui. Vous avez songé à demander HLM?
Non, non, pour la bonne raison que je ne pense pas rester. Alors cela, pour moi, ne présente aucun intérêt.
Comme travail, monsieur, alors, qu'est-ce que vous faites en ce moment?
Ben, en ce moment, je suis OS2, c'est-à-dire ouvrier spécialisé à la régie Renault, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, qui touche Orléans, quoi. C'est à la limite, c'est limitrophe à Orléans.
Oui.
C'est-à-dire que depuis que je suis arrivé à Orléans, j'ai travaillé dans plusieurs usines, chez Termont, chez John Deere, au Coussinet-Mince, Van der Weyl, où la maison Renault a des actions. Et si j'ai travaillé comme ça dans plusieurs usines, c'est que j'ai toujours pensé essayer de gagner plus.
Oui.
Parce que je pense que évidemment, je suis ouvrier, c'est un point de vue, disons, assez terre-à-terre, si vous voulez, mais il faut toujours essayer de gagner plus. Alors c'est pour ça que j'ai essayé de trouver à chaque fois un travail qui était plus payé, et pour l'instant, je m'estime satisfait. Je dis bien pour l'instant, car j'espère quand même essayer de m'élever un petit peu plus. Je crois qu'il faut avoir un petit peu d'ambition. Pas trop, évidemment, mais enfin, selon ses possibilités, essayer de s'élever un petit peu de son milieu.
Oui. Et alors, votre travail, en quoi ça consiste?
Ben, je travaille sur une machine, je fais des pièces de voiture, et on en a un certain nombre à faire à la journée, dans la journée, et puis c'est le travail d'équipe. C'est-à-dire que pour l'usine Renault, le matin, nous embauchons à 5h30 jusqu'à 1h30. L'équipe du matin, et quand nous sommes d'équipe du soir, comme c'est le cas en ce moment pour moi, c'est de 1h30 jusqu'à, c'est-à-dire de 13h30 si vous préférez, jusqu'à 23h, 22h50, 11h moins 10 quoi, le soir.
Le travail est varié quand vous êtes là?
Ben, c'est-à-dire que vous êtes dans un atelier, vous travaillez sur une machine, vous faites toujours le même travail. C'est-à-dire que c'est une espèce de mécanisation, si vous voulez. On met quelqu'un à une machine et puis il reste pratiquement tout le temps sur cette machine pour qu'il devienne, assez rapide, qu'il puisse faire une production assez forte. C'est-à-dire que, étant donné que c'est toujours le même qui travaille sur la machine, il connaît sa machine, il arrive à aller très vite, très vite, très vite. C'est ce qu'on appelle la cotation de poste, c'est le travail aux pièces, quoi.
Oui.
C'est-à-dire que nous, c'est un petit peu différent parce que Notre travail aux pièces, on nous dit vous en avez tant à faire par jour et ça ne va pas plus loin. Quand on a fait cette production qui nous est demandée, on s'arrête. Que dans certaines usines, vous avez une production au départ, on vous dit si vous voulez gagner tant, il faut que vous en fassiez tant. Et après, si vous en faites au-dessus, vous gagnerez plus. C'est-à-dire que c'est une espèce de compétition. Si l'on veut, on force l'ouvrier à aller de plus en plus vite pour gagner plus cher. Mais arrive un moment donné où ce n'est plus possible. Parce qu'à ce moment-là, quand le patron voit que l'ouvrier arrive à gagner pas mal, à ce moment-là, il remonte la production de base. C'est-à-dire que, par exemple, il dit, bon, ben, pour gagner, je sais pas moi, une supposition 5 francs de l'heure, c'est-à-dire 500 anciens francs, il faut que vous fassiez 300 pièces à l'heure. Et puis si vous faites au-dessus de 300 pièces à l'heure, vous avez tant par pièce ou vous avez tant de plus de l'heure. Alors s'il voit que l'ouvrier arrive à faire 700 ou 750 francs de l'heure, il va laisser ça pendant un certain temps. Et puis alors après, la production de base, au lieu d'être de 500, de 300 pièces, elle sera de 400 et ainsi de suite. Il arrivera à un moment donné où l'ouvrier ne pourra plus avoir de supplément de paye. Il arrivera à un niveau qui ne pourra pas aller plus loin. Alors c'est ça, c'est le danger du travail aux pièces, oui. Surtout quand c'est compétitif comme ça. Oui. Vaut mieux s'arrêter, gagner, disons, une moyenne et puis s'en tenir là, parce qu'arrivera un jour où l'ouvrier ne pourra plus arriver à tenir son travail.
Et quand vous avez fourni la quantité de pièces demandées,
vous pouvez partir ou... Ah non, c'est-à-dire que on n'est pas libre de partir, parce qu'évidemment ça serait assez relativement facile, encore que cela dépende des postes. Mais disons que la production a été étudiée scientifiquement, parce que maintenant les postes sont étudiés scientifiquement, et la production a été étudiée de façon à ce que vous finissiez à l'heure, à la fin du travail. Oui. Alors à ce moment-là, évidemment, vous avez des postes qui sont plus ou moins faciles, et quand on a l'habitude de travailler sur ce poste, eh bien, on arrive toujours à trouver, disons, des astuces ou... Pour essayer d'aller plus vite, ou alors on étudie le mouvement nous-mêmes, parce que étant donné que nous travaillons sur la machine, bon, ben, nous sommes bien obligés d'étudier les mouvements qui nous font perdre le moins de temps, parce qu'ils ont été étudiés avant nous, mais nous travaillant sur la machine, des fois on risque d'avoir peut-être, je sais pas, une petite différence, et alors là on fait notre mouvement, on apprend à faire notre mouvement correctement et puis de plus en plus vite, tout en gardant une limite de sécurité évidemment. Et puis alors à ce moment-là, ben, des fois on arrive à finir un petit peu avant l'heure, ce qui est quand même normal, parce qu'il faut bien que l'on se repose un peu, parce que l'étude des postes est une chose maintenant qui devient très très scientifique. Avant, dans les usines, on voyait des gens qu'on appelle des chronométreurs se promener avec un grand carton, une feuille de papier, puis un chrono, un crayon et une gomme, et puis il se mettait à côté de l'ouvrier et il prenait le temps, il prenait son temps sur tous les mouvements qu'il avait à faire, et puis il faisait après l'analyse, et puis il disait, ben, il faut X pièces pour à l'heure. Tandis que maintenant, cela est analysé dans des ateliers qu'on appelle les méthodes. C'est-à-dire que maintenant, des chronos, on n'en voit plus travailler autour des ouvriers. Maintenant, il y a une nouvelle machine qui arrive. Bon, on met un ouvrier à travailler dessus. Et pendant qu'il travaille dessus, cette machine est étudiée dans certains bureaux. On étudie le mouvement scientifiquement, c'est-à-dire que l'on élimine tous les gestes inutiles. On ne garde que vraiment les gestes qui sont nécessaires et indispensables pour faire marcher la machine. Et à ce moment-là, on déclare il en faut tant à l'heure et c'est fini. L'ouvrier est obligé de se plier à cette décision. Alors évidemment, cela est très bien, mais enfin, disons que sur une machine, c'est quand même qu'une machine. Et il peut arriver qu'il y ait des pannes ou qu'il y ait des réparations à faire ou qu'il y ait pour une cause quelconque une pièce qui casse ou autre et qu'il faut réparer. Bon, ben, l'ouvrier, il est obligé de la faire, cette réparation, s'il veut que la machine elle marche. Et pour donner du temps de réparation, c'est très difficile parce que théoriquement, on dit la machine, elle doit faire tant de pièces à l'heure, c'est tant de pièces à l'heure et c'est tout. Mais une machine, elle peut avoir des incidents mécaniques, il faut la réparer. Alors souvent de fois, pour se faire marquer du temps de réparation, c'est assez délicat. Enfin, il laisse quand même une petite marge de battement qu'on appelle, quoi. Vous avez droit par exemple à 5 minutes par heure pour vous détendre ou pour faire ce que certains besoins qui sont compris dans le temps de travail, mais si vous avez pris déjà un petit peu de retard, soit qu'il y a eu un défaut quelconque ou que votre machine, il y a eu quelque chose qui n'a pas été, à ce moment-là, vous êtes obligé de travailler parce que vous n'arriverez pas à faire votre production à la journée. Mais enfin, disons qu'à la régie Renault, dans l'ensemble, le travail est faisable.
Oui.
Je dis bien est faisable. Je ne veux pas dire par là qu'on finit 2 ou 3 heures à l'avance, non. Mais enfin, disons qu'on a un petit battement quand même.
Oui. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous déplaît?
Ben, disons que, évidemment, j'ai peut-être une mentalité un petit peu à part. Disons que le travail qui m'aurait plu, c'était la chaussure, évidemment, mais là, j'ai des ennuis au point de vue gain qui sont très difficiles à rattraper. Et alors là, ce qui me déplaît dans le travail, c'est cette mécanisation qui se fait. On dit que le progrès c'est très bien, mais le progrès ça n'avance pas l'ouvrier. Parce que par exemple, vous avez une machine qui fait, mettons, 200 pièces à l'heure. Bon, c'est une vieille machine, on va vous la remplacer par une machine neuve. Mais au lieu de 200 pièces, on va vous en demander 250. Alors c'est ça le progrès, mais peut-être au point de vue mécanisation, mais disons qu'au point de vue travail de l'ouvrier, il n'est pas gagnant dans l'histoire. Parce qu'on va lui demander une augmentation de production, mais pour le même tarif. Parce qu'on fera valoir que sa machine est toute neuve et pas mal de choses encore, alors il sera obligé de se plier encore à cette décision.
Vous voyez un contraste assez frappé avec le travail que vous faisiez?
Oui, évidemment, parce que dans la chaussure, évidemment, il dit qu'il y a du travail aux pièces, mais une chaussure, ce n'est pas une pièce de mécanique, ce n'est pas un morceau de fer. Il y a quand même une certaine délicatesse à apporter dans le travail, un certain soin, une attention qu'il faut apporter dans une pièce mécanique. La pièce mécanique est plus précise, mais enfin, disons que ce n'est pas une matière vivante, comme une chaussure, par exemple. Alors évidemment, le travail de la mécanique, surtout dans des usines qui font des pièces pour des voitures, alors là, il faut en faire une quantité industrielle. Alors évidemment, arrivé à un moment donné, moi je connais des camarades qui travaillent avec moi à l'usine, et bien, ça fait 15 ans ou 20 ans qu'ils travaillent à la régie, bien, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'ils sont sur la même machine. Bien, évidemment, les gars, ils ont une certaine habileté dans le travail que vous mettriez quelqu'un à leur place, n'arriverait pas à avoir. Mais enfin, j'estime que la personne qui fait ce travail-là, au bout d'un certain temps, ce n'est plus un homme, c'est un robot, quoi. Il fait ça machinalement, et il regarde même pas les gestes qu'il fait, il fait ça par habitude. Et moi, j'estime que c'est un tort quand même. L'ouvrier est quand même un être humain. Et je pense que de laisser un ouvrier 15 ans sur la même machine, ça arrive, il n'est pas dégoûté, mais enfin, il fait ça par habitude, quoi. Et il arrive certaines fois que l'on change de poste selon les impératifs de la production ou quelqu'un qui est absent ou malade, on vous change de poste, vous apprenez un travail nouveau. En mettant un petit peu de conscience professionnelle, parce qu'il faut quand même mettre une conscience professionnelle même que le travail ne plaise pas, eh bien, vous arrivez quand même à plus vous intéresser à ce travail-là parce que c'est un travail nouveau. Mais après, la personne revient, vous revenez sur votre travail. Alors, si vous êtes resté, par exemple, à l'autre poste pendant, par exemple, 1 mois ou 2 mois, quand vous revenez sur votre poste, vous avez la sensation de refaire un travail. Et puis, au bout de 3-4 jours, l'habitude est revenue, et puis alors là, ça devient monotone. Oui. Ça devient très monotone.
Est-ce que vous pourriez décrire une journée de votre ancien travail?
Dans la chaussure.
Oui, qu'est-ce que vous faisiez tous les jours?
Tous les jours, j'étais à l'atelier de montage. Et je faisais presque toujours le même travail, presque toujours. Mais les formes de chaussures diffèrent, évidemment. Au départ, une chaussure, c'est une chaussure, mais on faisait plusieurs modèles. On faisait surtout de la chaussure homme, mais alors du soudé, du black ou du goudir. Et le travail était quand même assez différent, parce que vous aviez des coloris ou des formes de chaussures qui étaient plus délicates à manier les unes que les autres. Alors donc, à chaque modèle, si on veut, on était obligé d'apporter une attention et un soin particulier. Et ce n'était pas un travail aux pièces, surtout ça. On avait une production à faire par jour. Ce sont des chaussures qui coûtent relativement cher. Ce n'est pas des chaussures bon marché que l'on trouve comme dans certains magasins. C'est de la chaussure de luxe que je faisais. Alors évidemment, on ne peut pas mettre quelqu'un aux pièces quand il fait un travail très très soigné. Parce qu'il nous arrivait de faire des chaussures pour des particuliers qui disaient, nous, on veut une paire de chaussures comme ça, avec telle couleurie, avec telle forme. Enfin, ils donnaient toutes les données possibles. Et cette paire de chaussures, il fallait y apporter un soin très très particulier parce que c'était une paire de chaussures qui revenait très très cher quand elle était finie. Il y a une chaussure qui, par exemple, vous reviendrait à 15 000 ou 18 000 francs, ancien évidemment. Mais enfin, par rapport, comparé aux chaussures qui valent 5 ou 6 000 francs, vous pouvez regarder la différence parce que c'était des gens qui d'abord pouvaient se permettre évidemment et puis c'était des gens qui voulaient, qui savaient ce qu'ils voulaient.
Oui.
Alors à ce moment-là, il fallait quand même apporter un soin particulier. Et alors là, je ne travaillais pas en équipe, évidemment. On faisait la journée normale, on embauchait à 8 heures, de 8 heures à midi, puis de 2 heures jusqu'à 6 heures. Tandis que maintenant, on embauche quand on est l'équipe du matin de 5h30 à 13h30, c'est-à-dire 1h30 de l'après-midi. Et puis l'équipe du soir prend la relève de 13h30 jusqu'à 22h50, c'est-à-dire 11h-10.
Vous avez la journée continue ?
La journée continue, c'est-à-dire que la journée continue, vous n'avez qu'une heure pour manger. C'est-à-dire que très souvent, vous n'avez pas la possibilité de revenir chez vous pour manger. Mais enfin, à tout prendre, je préfère la journée continue à l'équipe. Parce qu'on a des heures plus régulières pour manger, on dort plus régulièrement que quand vous êtes d'équipe du matin, par exemple, que vous embauchez à 5h30. Ben, cela vous fait des petites nuits, parce que le soir, on peut toujours dire qu'on a la possibilité d'aller au lit à 7h ou 8h, mais tout le monde ne peut pas aller au lit à 7h ou 8h. Moi, je vois, je suis marié, ma femme finissant à 6h30 le soir de travailler, c'est-à-dire 18h30, il faut qu'elle fasse les commissions. Après, il y a mon petit gars à aller chercher en nourrice. Le temps que tout le monde arrive à la maison, il est 7h, 7h10, 7h15, même des fois un petit peu plus. Il faut préparer à manger, il faut mettre la table, et puis après, il y a pas mal de petits travaux à faire à la maison. Et donc, ce n'est pas possible de se coucher avant 9h, 9h30. Mais pour se lever le matin à 4h30 ou 5h moins le quart, cela fait très tôt. Et le soir, finir de travailler à 11h moins 10, cela fait tard aussi. C'est-à-dire que le matin, on n'a pas son compte de sommeil, et le soir non plus. Et c'est très éprouvant pour l'état général et pour les nerfs en particulier.
En fait, de plus en plus de femmes mariées travaillent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est une obligation, si vous voulez. C'est une obligation que la femme mariée travaille, parce que évidemment, c'est peut-être une fantaisie, mais si l'homme travaillait, si l'homme gagnait plus dans son travail, la femme ne serait pas obligée de travailler. Parce qu'il faut reconnaître que le travail des femmes, maintenant les femmes ont tend à payer les femmes aussi cher que les hommes pour un travail égal, ce qui est tout à fait logique. Parce que ce qui se passait dans l'ancien temps, ou même il n'y a pas tellement longtemps, que l'homme ou que la femme fasse le même travail que l'homme, elle était payée moins cher sous prétexte que c'était une femme. Maintenant c'est fini et c'est un bien, parce qu'une femme qui fait le même travail qu'un homme, j'estime qu'elle doit être payée aussi cher. Parce qu'elle encourt les mêmes risques que l'homme qui fait le travail. Et les femmes mariées sont obligées de travailler très souvent parce que moi je vois c'est le cas pour moi, je suis marié, j'ai un enfant, et bien avec toutes les charges qu'il y a, le loyer, le gaz, l'électricité, le chauffage, les impôts par-ci et pas mal d'autres choses, ma paye ne suffirait pas pour faire vivre ma famille, c'est pas possible, ce n'est pas possible, donc ma femme est obligée de travailler. Je préférerais qu'elle reste à la maison, parce qu'à la maison il y a bien assez de travail pour faire pour une femme, mais là elle est obligée de travailler si l'on veut arriver et arriver juste encore, parce que c'est quand même assez difficile.
Avec qui est-ce que vous parlez au cours de votre travail?
Je ne saisis pas bien le sens de votre question.
C'est une question réaliste. Vous avez l'occasion de parler pour votre travail.
Pendant le travail?
Oui, pour des questions de travail.
Oui,
Votre camarade.
Oui, évidemment. Souvent de fois, nous parlons, parce que comme nous travaillons peut-être à 2-3 mètres l'un de l'autre à peine, on arrive à parler. Puis des fois, on fait une petite pause quand même, parce qu'il faut bien quand même des fois s'arrêter. Évidemment, on peut parler, on parle de travail, on parle de ce qui se passe, des machines qui arrivent ou de la machine sur laquelle on travaille, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se consulte et évidemment, très souvent, nos avis concordent, quoi.
Est-ce que vous êtes satisfait de vos conditions de travail ?
Ben alors moi, personnellement, je ne suis pas satisfait du tout de mes conditions de travail. Alors pas du tout, parce que je travaille sur une rectifieuse, une machine Cincinnati, et c'est une meule Emery. C'est une meule Emery qui tourne à 3000 tours minute. C'est-à-dire une meule qui est comme ça, puis qui est large comme ça, et elle tourne à 3000 tours minute. Et alors j'ai une pièce qui vient se mettre dans un mandrin, et quand la pièce est bien mise à la mandrin, je la serre, je mets ma machine en plongée, c'est-à-dire que quand je mets en plongée, c'est un terme de travail, je pousse une manette, la meule vient se mettre sur la pièce. Alors la meule tourne dans un sens et la pièce tourne dans l'autre, c'est-à-dire que par frottement, j'élimine de la matière, si vous voulez.
Oui.
Et sur le côté de la meule qui est tranchant, je fais une petite colorette.
Oui.
Alors là j'ai des risques parce que de la protection, ce n'est pas possible qu'il y en ait une pour l'ouvrier. Ah. On est obligé de voir le travail que l'on fait.
Oui.
On ne peut pas mettre une protection devant. Mmh. Et je vois sur la machine que je travaille, c'est une machine qui a fait son temps évidemment, mais oui, que l'on garde parce qu'elle rend encore des services. Et bien en l'espace de 4 mois, j'ai 5 meules qui ont éclaté.
Ah.
Et dont deux en un mois. Et j'ai eu de la chance que les meules soient neuves, les morceaux étant très très gros sont restés coincés dans la machine. Autrement, la meule aurait été un petit assez usée. En éclatant, je risquais de me faire de ramasser un quartier de meule dans la tête et ou dans les yeux, enfin dans la figure. Et là, c'est un accident qui est très grave. Ça a failli arriver à mon camarade qui fait le même travail derrière moi. Il a juste eu le temps de se baisser, c'est passé au-dessus de sa tête. Et quand cette meule éclate, ça ne prévient pas parce que c'est une meule qui est toute en grain d'émeri. Donc le moindre choc violent, comme elle tourne à 3000 tours minute, il n'y a pas d'histoire. Le choc fait éclater la meule et puis la meule, eh bien, à ce moment-là, elle part.
Vous avez déjà fait des revendications
hein? Ben oui, enfin, on l'a signalé, ça a été signalé, la sécurité est venue. Ah ben oui, bon, ben oui, d'accord, oui. Ah oui, alors on fait une petite révision à droite ou à gauche et puis ça va bien, on continue comme ça. Jusqu'au jour où il y aura un accident grave, alors à ce moment-là, on prendra des décisions. Parce que c'est presque toujours comme ça, quand il y a un accident grave, à ce moment, on se penche vraiment sur la machine pour voir ce qui ne va pas. Tant que ce n'est pas trop grave, bon, ben, on regarde, on discute et puis l'ouvrier continue à travailler dessus avec les mêmes risques.
Est-ce que vous avez déjà fait grève ?
Oui, évidemment, étant donné que je travaille à la régie Renault, j'ai fait grève. J'ai fait la grève, pas forcée, j'ai fait la grève volontaire. Parce que, évidemment, tout le monde était en grève, personne ne travaillait, mais enfin, disons qu'il y a eu des non-grévistes qui sont restés chez eux, qui ne sont pas venus à l'usine. J'ai fait grève pendant. Nous avons fait grève à la régie Renault de Saint-Jean-de-la-Ruelle, c'est-à-dire Orléans, parce que ça fait partie d'Orléans. Nous avons fait grève 31 jours.
Oui.
Et la grève a été bien faite.
Quand ça ?
Du mois de mai, je ne me rappelle plus les dates exactes, oui. Ça doit être 17 ou 18 mai dernier, c'est-à-dire 68, jusqu'à la mi-juin, 68 à peu près.
Oui.
Et la grève a été totale, complète, à tous les stades, depuis l'OS jusqu'à l'ingénieur, évidemment, c'était forcé, il n'y avait plus personne qui travaillait, les machines ne tournaient pas. Et je voulais apporter des précisions. Parce que souvent de fois, évidemment, quand on lit les journaux ou qu'on lit les comptes rendus d'un tel ou d'un tel, c'est des avis diffèrent et dans l'histoire, on ne connaît pas vraiment la vérité. Alors moi, étant donné que je suis ouvrier de la régie Renault et que j'étais présent le jour, le matin, l'après-midi et la nuit, parce que nous tournions en 3-8 pour assurer la sécurité de l'usine, il n'y a jamais eu de dégradation de matériel. Au contraire, certaines fois, les responsables de la grève nommaient des ouvriers dans certains ateliers pour entretenir les machines et entretenir les pièces pour qu'il n'y ait pas d'ennui quand on recommencerait le travail. La sécurité de l'usine a tout été assurée parce que nous avons des pompiers de service à l'usine qui ont toujours été présents. Nous n'avons jamais sequestré ni le chef du personnel, ni le directeur. D'ailleurs, le chef du personnel se promenait en toute liberté dans l'usine, aussi bien le jour, la nuit, quand il voulait. Et la correction a été exemplaire. Nous avons même eu droit aux félicitations du préfet d'Orléans, enfin de la région centre, qui nous a même envoyé des fleurs. Ça, c'est très bien. Nous la remercions vivement. Mais la grève a été faite dans un esprit évidemment revendicatif, parce que c'était là le but, mais enfin, disons qu'elle a été faite dans le calme, qu'il n'y a jamais eu de dégradation de matériel ou autre, parce que de toute façon, le premier privé de ce matériel, ça aurait été l'ouvrier qui lui-même faisait grève. Donc, ça aurait pas été bien malin de notre part d'abîmer du matériel. Quant aux conclusions de la grève, elles ont été assez catastrophiques.
Ah.
Oui, parce que nous avons eu 14% d'augmentation de salaire pour les OS jusqu'à un certain coefficient, et puis au-dessus, les cadres et autres ont eu 10%. C'est très bien, mais évidemment, ça faisait un rattrapage de salaire d'à peu près 60 centimes de l'heure, ce qui est quand même appréciable. Seulement, par ailleurs, la vie a fait un bond énorme. Parce que c'est un petit peu, c'est un cercle sans fin, c'est un cercle vicieux, si vous voulez. On nous augmente de 10 centimes, on augmente la vie de 4 centimes d'un côté, on augmente autre chose de 5 centimes, et puis en définitive, nous n'avons rien gagné, au contraire, nous avons tout perdu. Et moi, je pense personnellement que maintenant, ce n'est plus la revendication qu'il faut faire, dire par exemple, nous voulons 3, 4 ou 5 ou 6% d'augmentation, parce que ça n'avancera en rien. Je pense que maintenant, ce qu'il faudrait, c'est se tourner d'un autre côté du problème, c'est-à-dire la diminution du coût de la vie. Il n'y a que comme ça que l'on peut y arriver. Parce que si on nous donne 10 centimes, qu'on nous en prend 15 de l'autre, eh bien, on n'arrivera jamais à s'entendre, on sera toujours en retard. Et je pense qu'il faudrait à ce moment-là dire, bon, ben, ce que nous avons, évidemment, on demande toujours à gagner plus, mais pour l'instant, cela nous suffit, mais en retour, on voudrait une diminution du coût de la vie. Et cela est très faisable, parce que souvent de fois, si on regarde bien les choses, un produit vaut tant au départ et à l'arrivée au consommateur, il vaut tant, mais si on commence à éliminer certains intermédiaires, le produit ne serait pas si cher que ça. Par exemple, à la saison des artichauts en Bretagne, souvent de fois, c'est une catastrophe parce que les Bretons sont obligés de jeter leurs artichauts parce qu'on ne leur achète pas assez cher. Les gens qui vont aller les revendre ailleurs ne leur achètent pas assez cher. Et une fois, les Bretons sont venus à Paris, sur le carreau, vendre leurs artichauts directement de chez eux. Eh bien, vous aviez des artichauts, de très beaux artichauts, qui valaient 50 centimes pièce, et vous alliez au revendeur dans l'épicerie à côté, le même artichaut valait 95 francs pièce. Donc, par conséquent, c'était tous les intermédiaires qui, d'un échelon à l'autre, jusqu'au dernier revendeur qui revend au consommateur, qui fait que ce prix de base augmente. Et je pense que si on éliminait certains intermédiaires, parce qu'il en faut de toute façon, mais enfin, disons que si on en diminuait le nombre, eh bien, la vie serait quand même déjà beaucoup moins chère, parce que cela éliminerait des augmentations qui se trouvent faites à mi-chemin. Et à ce moment-là, il serait possible d'arriver à vivre assez bien.
Alors, vous êtes syndiqué, évidemment
Non.
Non,
je ne suis pas syndiqué. Disons que je participe à la grève. Par exemple, au mois de mai, juin, dans l'année dernière, je n'étais pas syndiqué, mais j'ai fait la grève, j'étais toujours présent, je n'ai jamais manqué une heure de grève. Et chaque fois qu'il y a une revendication, je la fais. Mais je ne tiens pas à me syndiquer parce que je n'apprécie pas la forme de défense de l'ouvrier du syndicat. Il y a un certain syndicat, je ne veux pas le nommer parce que ça ne me regarde pas étant donné que je ne suis pas syndiqué, mais enfin, il y a un syndicat qui se rapproche beaucoup trop près d'un parti politique. Je sais très bien que le syndicalisme et la politique sont très liés, évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Mais j'estime qu'un syndicat ne doit pas faire grève, par exemple, pour comme ça s'était passé à un certain moment donné, il fallait faire grève une demi-journée pour arrêter la cessation des hostilités au Sud-Vietnam. Évidemment, c'est bien, c'est très bien. Je ne suis pas contre. Mais alors que l'on fasse une manifestation pour la cessation des hostilités au Sud-Vietnam, un samedi ou un dimanche. Parce que ça, c'est quand même politique. J'estime que le syndicat n'a pas à faire grève aux ouvriers pour la paix au Sud-Vietnam. Je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait la paix, ça c'est certain. Mais enfin, j'estime que ce n'est pas à l'ouvrier de perdre une journée de travail pour la fin de la guerre au Sud-Vietnam. Qu'il fasse ça le samedi ou le dimanche, c'est son droit. C'est tout à fait logique. Mais j'estime que ce n'est pas du ressort du syndicat de faire ça. Ça, pour moi, c'est vraiment de la politique. Ce n'est plus de la défense de l'ouvrier à ce moment-là, ni de ses revendications, réduction des horaires, abaissement de l'âge de la retraite, augmentation de salaire et pas mal de choses. Et tandis qu'à l'autre syndicat, il est pas trop mal, mais il n'est pas assez ferme. Il est trop hésitant. Alors c'est pour ça que je ne veux pas me syndiquer. Ce n'est pas pour ça que je suis anti-gréviste, loin de là, je suis gréviste, mais disons que je ne prends pas position pour l'un ou pour l'autre. Tant qu'il n'y aura pas de syndicat capable de vraiment défendre les intérêts de l'ouvrier, à ce moment, je ne me syndiquerai pas. Moi, ce que j'aimerais, par exemple, c'est qu'il n'y ait qu'un syndicat unique. Évidemment, si c'est un syndicat unique, on dira qu'il n'y a plus le choix. C'est certain. Mais si vous avez un syndicat unique, à ce moment-là, j'hésiterai pas à le payer très cher par mois, au point de vue cotisation. Mais que je sois sûr que quand nous sommes en grève, qu'on ne fasse pas grève 2-3 jours ou 4 jours pour 2 ou 3 centimes de l'heure, qu'à ce moment-là, on puisse se mettre en grève un mois déjà au départ et demander, par exemple, une augmentation de salaire de 30 ou 40 centimes et que, pendant ce temps de grève, avec l'argent que nous avons versé au syndicat, que nous ayons un certain salaire d'assuré, comme ça se passe, par exemple, en Allemagne, chez Volkswagen ou chez Ford en Amérique.
Oui.
Évidemment.
Vous ne touchez pas de salaire tant que...
Non,
étant non syndiqué, vous n'en touchez pas.
Non, mais les syndiqués non plus, de toute façon.
Ah.
C'est-à-dire qu'il y a un syndicat maintenant qui a établi une caisse de grève, mais enfin, disons que c'est tout à fait superficiel ce que les gens touchent quand ils sont en grève.
C'est-à-dire que vous avez eu une perte complète.
Ah, c'est une...
Disons
que la grève, c'est une perte sèche.
Oui.
C'est-à-dire que pendant la grève de mai-juin l'année dernière... aux discussions de Grenelle, nous avions eu quand même droit à 50% du salaire perdu, c'est-à-dire à des demi-journées, quoi,
oui.
Par le fait.
Oui. Et monsieur, qu'est-ce que vous faites de votre temps libre ?
De mon temps libre, je dois avouer que j'en ai pas beaucoup, vu que le travail que je fais en équipe est très fatigant.
Oui.
Par exemple, si je suis du matin, que je me lève à 5h30, puis que je finis à 1h30, ben, l'après-midi... très souvent, il faut que je me repose. Parce que si je ne me repose pas l'après-midi, c'est une fatigue supplémentaire de ma journée de travail. Et le soir, quand je vais me coucher, il faut que le lendemain matin, je recommence encore à me relever à 5h30. Donc, du temps libre, j'en ai très, très peu. Et le rare temps libre que je peux avoir, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, bien qu'il y ait quand même pas mal de commissions à faire le samedi, parce que quand on travaille la semaine... Souvent, une fois, on est obligé d'aller faire des commissions que l'on ne peut pas faire tout seul, qu'on est obligé d'y aller avec sa femme. Bon, ben, le samedi après-midi est réservé pour faire les courses en ville, comme l'on dit.
Oui.
Et le dimanche, j'aime bien rester chez moi.
Oui.
Parce que c'est tout à fait normal. Ma femme, je ne la vois pas beaucoup la semaine, vu mon décalage d'horaire et puis que ma femme fait la journée normale. Donc, on n'arrive pratiquement pas à se voir. Par exemple, là que je suis du soir, je vais voir ma femme pendant 3/4 d'heure, 1 heure à midi. Ce soir, quand je vais arriver à 11h-10, elle sera au lit, ce qui est tout à fait logique. Le même matin, elle va se lever à 6h30 pour aller au travail. Moi, ayant fini mon travail à 11h-10, étant arrivé ici à 11h30, ben, je vais être en train de dormir. Donc, ma femme, je ne la verrai pas. Alors, quand je suis d'équipe du soir, ben, le matin... je me repose.
Oui.
Et le dimanche, il nous arrive d'aller faire un petit tour, d'aller se promener comme ça, soit sur les bords de la Loire ou des fois avec des amis. Dans mon temps libre, j'arrive à faire du sport, évidemment. Enfin, je fais du sport à l'usine parce que je ne peux pas me permettre d'en faire ailleurs. Vu que je suis marié, évidemment, ça pose beaucoup de problèmes. Quoi. On n'a pas la liberté qu'on a quand on est célibataire pour aller, par exemple, s'entraîner ou autre, ou pour aller faire des déplacements.
Alors, dimanche dernier, mettons...
Mais nous avons été faire un petit tour très peu de temps parce qu'il y avait un vent très fort. Alors c'était quand même assez embêtant. Mais enfin, disons que le dimanche, on s'arrange pour pouvoir aller faire un tour, soit que nous allons chez les beaux-parents ou alors que nous partons avec des amis en voiture pour faire un petit tour dans la région.
Et pendant les vacances d'été, qu'est-ce que vous ferez ?
Pendant les vacances d'été, ça c'est... On en revient toujours au même problème, parce que c'est toujours ce problème-là qui est à la base. Vu nos moyens, nous ne pourrons pas nous permettre d'aller en vacances. ça sera pas possible. Ça sera pas possible. Nous pourrons descendre peut-être 8 ou 15 jours chez mes parents, à Limoges, mais sans plus. Parce que, évidemment, nous avons beaucoup de frais déjà pour sortir. C'est quand même assez délicat, parce qu'avec les charges que l'on a, ça limite beaucoup nos moyens. Par exemple, nous payons 16 000 francs de loyer par mois, 25 000 francs de nourrice. Le gaz, électricité, il faut bien compter 6 à 7 000 francs. Le chauffage, à peu près pareil. Alors vous voyez, ça fait déjà pratiquement une paye de partie. Et avec l'autre paye, eh bien, il faut manger, il faut s'habiller. Alors évidemment, l'argent qui reste, il est assez rare. Alors c'est pour ça que les moyens de sortie, disons les distractions, sont assez rares.
Si vous aviez 2 heures supplémentaires de libre chaque jour.
Si j'avais 2 heures supplémentaires de libre par jour, la première chose que je ferais, et que je fais en ce moment en dehors de mon travail, c'est essayer d'améliorer ma condition. En ce moment, je suis des cours pour, rentrer dans une usine pour avoir un travail assez rémunérateur, et j'essaierai d'apprendre encore pour essayer d'aller plus haut, parce que je n'ai pas pu apprendre en étant jeune. C'est toujours pareil, c'est toujours cette histoire de finances. J'aurais pu poursuivre des études, mais mes parents étant très pauvres, enfin ma mère, parce que j'ai plus de famille, ma famille a été tuée pendant la guerre à Oradour-sur-Glane, au massacre d'Oradour-sur-Glane, et évidemment pour poursuivre des études, j'avais l'intelligence voulue pour pouvoir continuer des études, mais vu l'argent que possédait ma mère, ce n'a pas été possible. J'ai été obligé de me mettre tout de suite au travail. Alors c'est pour ça que si j'avais 2 heures de plus de libre par jour, eh bien, j'essaierais de m'instruire. Évidemment, les distractions, c'est très bien. Ça, il faut que l'on se distraie, il faut que l'on se change des idées. Mais enfin, pour moi, personnellement, je pense que le confort matériel et puis enfin, pas mal de choses passent quand même avant. Je préfère sacrifier, par exemple, 2 heures de loisirs à essayer d'étudier, d'apprendre quelque chose, de me documenter, de m'instruire, de lire, pour pouvoir améliorer ma condition. Et le jour où je serai arrivé à un niveau que je saurai que c'est à peu près mon plafond, parce qu'il ne faut quand même pas vouloir aller trop haut, parce que des fois, on se rend compte que la chute est très dure, mais à ce moment-là, évidemment, je pourrais prendre du temps libre, je pourrais avoir des loisirs.
Oui. Mais pas de voiture.
Non, je n'ai pas de voiture. Disons que la voiture, c'est une chose qui ne m'a jamais tellement emballé. Je dis, on pourra dire, oui, vous dites ça parce que vous n'avez pas de voiture, d'accord. Mais enfin, ma femme a son permis depuis 4 ans. Et évidemment, j'aurais pu acheter une voiture pas neuve, mais j'aurais pu acheter une voiture d'occasion, mettons à 200 ou 300 000 francs, une assez bonne voiture. Mais alors, quand je vois ce qui se passe au point de vue circulation, je suis bien placé. Je suis placé sur un axe routier assez important. J'ai 3-4 nationales qui passent pas loin de chez moi, là sur le quai, sur le pont en direction de Vierzon et puis de la région du Massif Central, Toulouse et tout, et puis de ce côté-là en direction de Tours et puis de Angers et tout. Ben, quand je vois la circulation qu'il y a et la vitesse que les gens roulent et puis surtout le non-respect du code de la route, moi franchement, je préfère ne pas avoir de voiture. Parce que vous avez beau être prudent en voiture, si vous avez quelqu'un qui vous brûle un stop, eh bien, il n'y a pas de problème, c'est la catastrophe. Ou alors quelqu'un qui double en côte, vous arrivez en face, eh bien, ça y est, c'est pareil. Moi, j'estime qu'il y a beaucoup trop de risques. Je ne dis pas que je n'aurai pas de voiture, si, parce que ça devient maintenant, ça devient presque une nécessité. Avant, on considérait ça comme un luxe, maintenant, ça devient une nécessité. Alors, plus tard, je ne dis pas que j'en aurai pas une, mais pour l'instant, j'ai assez de frais comme ça, sans me mettre encore à des frais de voiture encore supplémentaires.
Qu'est-ce que vous pensez que l'on devrait surtout apprendre aux enfants à l'école? Qu'est-ce qu'il faudrait apprendre aux enfants à l'école?
Leur apprendre. Mais ça va peut-être paraître ridicule, mais moi j'estime qu'une chose qu'on devrait leur apprendre aux enfants à l'école, c'est la politesse. Parce que la politesse, c'est une chose que l'on ne rencontre plus en ce moment. La politesse, maintenant, c'est fini. Moi, je vois, je ne suis pas de la vieille époque, je n'ai que 27 ans. Mais moi, j'aurais été sur un trottoir, et il y aurait eu des personnes âgées qui venaient en face, je ne serais pas descendu du trottoir. Eh bien, j'aurais pu faire attention à moi. Parce que n'importe qui m'aurait vu, ça aurait été soit une paire de claques ou autre chose. Et j'estime que la politesse, on ne devrait même pas l'apprendre, ça devrait être naturel. Que l'on doit s'effacer devant une personne âgée, ou être poli, ou pas bousculer les gens sans dire pardon, ou vouloir tout casser quand on est en quelque part. J'estime que la politesse, c'est déjà une bonne base. Puis au point de vue instruction, j'estime que l'instruction qu'on leur donne actuellement est assez bonne. Évidemment, elle est peut-être mal répartie, disons, mais enfin, j'estime que c'est assez valable.
Oui. Et quelle matière surtout
Les matières utiles, vous savez, au départ, on ne peut pas tellement juger de l'utilité d'une matière. Tout ça dépend de ce que l'enfant fera plus tard. Parce que quand un enfant, par exemple, il a 7-8 ans, évidemment, il veut être mécanicien, il veut être aviateur, il veut être pas mal de choses. Alors, son choix n'est pas encore fait, il est beaucoup trop jeune. Alors, il faut lui enseigner pas mal de matières. Évidemment, quand il arrive à commencer ses études secondaires, il y a certaines matières, je ne veux pas dire qu'il faudrait supprimer, mais disons qu'il faudrait réduire.
Oui.
Par exemple, moi, j'en reviens toujours à moi. J'apprenais la chaussure, d'accord, la chaussure, il me fallait du dessin et pas mal de choses, mais enfin, dans la chaussure, je vois pas tellement l'utilité de l'histoire de France. Évidemment, il en faut, il faut quand même que l'on connaisse son histoire de France, mais enfin, disons qu'on pourrait, au lieu d'avoir 3 heures d'histoire de France, qu'on aurait pu en avoir qu'une heure. La géographie, c'est à peu près pareil. Évidemment, les maths, il nous en fallait quand même assez, parce qu'on a quand même des calculs à faire dans la chaussure. Pas celui-là qui travaille, mais enfin, le coupeur patronnier, celui-là qui crée les modèles, il faut quand même qu'il fasse un modèle qui ressemble à quelque chose, quoi. Il faut quand même que son modèle, il puisse tenir sur une forme. Donc, il y a certaines choses, le dessin aussi, quand il dessine un modèle, il faut quand même qu'il ait un certain coup de crayon. Le dessin, c'est quand même utile, parce que... Moi, j'estime que l'histoire et la géographie, ça ne m'était pas tellement utile. Je ne dis pas par là qu'il fallait pas que l'on nous en fasse apprendre. Évidemment, il faut quand même que l'on connaisse l'histoire et la géographie. Enfin, par exemple, moins que quelqu'un qui se destine à une carrière dans cette branche-là.
Oui. Et le latin, qu'en pensez-vous ?
Ah, le latin. Le latin, je pense que c'est, à notre époque, c'est une langue... pas morte, mais enfin, disons, presque. Parce que maintenant, vu les connaissances qu'il y a, et puis le développement économique, social et tout, j'estime que, par exemple, des langues qui sont très utiles, évidemment le français, c'est certain, l'anglais, parce que c'est la langue commerciale par excellence, l'allemand et l'espagnol. Enfin, disons que ce sont des langues qu'on arrive à se comprendre un peu partout. Vous avez qu'à prendre toutes les grosses entreprises, et bien, ils ont automatiquement des traducteurs d'anglais ou d'allemand ou d'espagnol. Parce que c'est des langues qui représentent les 3/4 des pays. Évidemment, il y a le russe, mais alors là, c'est déjà beaucoup plus délicat. Parce que le commerce avec les pays de l'Est est quand même assez restreint. Mais enfin, disons que l'anglais... ça donne une ouverture sur l'Angleterre, évidemment, sur pas mal de pays du Nord et puis sur l'Amérique. Parce que l'espagnol, par exemple, c'est toute l'Amérique du Sud, qui parle pratiquement toute l'Amérique du Sud, parle espagnol ou portugais. Bon, et puis l'allemand, c'est pareil. Il y a beaucoup de pays qui parlent allemand, donc j'estime que ces langues-là priment avant le latin.
Dans quelle matière aimeriez-vous que votre enfant soit fort à l'école?
Alors là, c'est une question très très délicate. Ça. C'est une question très très délicate. La matière où je voulais qu'il soit le plus fort, ce n'est pas à moi de la décider, c'est à lui. C'est à lui, parce que si lui, par exemple, il aime beaucoup les maths, je ne vais pas lui dire non, les maths, moi, j'aime pas ça, il faut que tu apprennes la géographie ou autre. Moi, je le laisserai libre de son choix. Ce sera à lui de choisir, ce sera son avenir, ce n'est pas à moi d'en décider pour lui. Disons que je peux le conseiller, mais si on voit qu'un enfant est doué pour quelque chose, je ne vois pas pourquoi il faudrait le contrarier.
Oui. Qu'est-ce qui fait que les enfants réussissent ou ne réussissent pas à l'école?
Ça, il y a pas mal de choses. disons qu'il y a le caractère de l'intéressé déjà. Vous en avez qui auront un caractère docile, qui voudront apprendre, et puis d'autres qui s'en moqueront un petit peu. Et je crois que la réussite à l'école, c'est surtout les moyens employés pour instruire ces enfants. Maintenant, vous avez pas mal de techniques nouvelles. Je parle peut-être quand même pas dans les très jeunes, mais vous avez des méthodes audiovisuelles et vous avez des formes d'enseignement diverses qui permettent quand même à un enfant moyennement doué d'affaire des études très très poussées. Puis c'est, disons que c'est la diversité de l'enseignement fourni et puis l'étalement de cet enseignement qui fait que pour moi personnellement, les enfants réussissent. Disons qu'avant, c'était tout groupé, l'enseignement était assez groupé, tandis que maintenant, il est plus étendu, il est plus diversifié.
Alors jusqu'à quel âge faudrait-il qu'un enfant continue ses études?
C'est toujours pareil. Moi, je crois que c'est selon les capacités de celui qui poursuit des études. Par exemple, moi, je suis absolument contre qu'un enfant aille à l'école jusqu'à 16 ans. Oui. Pour passer son certificat d'études à 16 ans maintenant... il en saura peut-être plus, mais je pense pas qu'avec son certificat d'études cela lui servira à grand chose, parce que le certificat d'études maintenant c'est pratiquement plus rien comme diplôme. C'est pratiquement plus rien. Évidemment, le certificat d'études, si vous dites à quelqu'un ben moi j'ai pas mon certificat d'études, la personne va rire doucement. Il va dire ben mon sang il est pas tellement intelligent pour pas avoir eu son certificat d'études. Et moi j'estime qu'à 16 ans c'est beaucoup trop long pour une école primaire. 16 ans c'est beaucoup trop long. Moi, je ne sais pas, c'est un point de vue personnel que je donne, hein, mais j'ai l'impression que si on pousse les enfants à l'école jusqu'à 16 ans, c'est par peur du chômage, je crois bien.
Ah, oui.
Je crois, parce que les emplois sont quand même assez difficiles à trouver.
Oui.
Évidemment, quelqu'un qui n'est pas tellement, au point de vue physique, a une constitution physique relativement faible, il ne peut pas faire du terrassement. Alors évidemment, on pourra toujours lui dire qu'il y a de la place dans le terrassement, mais enfin, il n'est pas apte à faire ce travail-là. Et moi, je pense que c'est parce qu'il y a un manque d'emploi et que en faisant continuer les enfants jusqu'à 16 ans, cela permettra peut-être de faire des emplois, de créer des emplois nouveaux et puis d'avoir des emplois déjà existants libres pour pouvoir les placer après. Parce que le chômage, c'est un point crucial en France.
Et pour servir l'intérêt de l'enfant, qu'est-ce qu'il faudrait Vous
voulez
l'arrêter jusqu'où
vous voudriez le pousser? Le pousser, c'est à lui de le voir, de le pousser. Si un enfant est assez doué pour poursuivre des études, bon, mais les lui faire poursuivre, et puis le jour où il sent que lui personnellement, il ne peut pas aller plus loin, ne pas le forcer à aller plus loin. Parce que c'est aller contre nature. Et il ne fera rien de bon, il arrivera même à être dégoûté de ce qu'il fait. Et il pourra même être dégoûté d'avoir poursuivi des études parce qu'il n'en verra jamais la fin.
Oui.
Moi, je pense qu'il faut qu'il s'arrête quand lui-même sent qu'il en a assez.
Et pareil pour les garçons et les filles.
Mais la scolarité, enfin disons, oui, je pense. Évidemment, pour les filles, c'est quand même assez spécial. Par exemple, la couture, tous ces métiers féminins. Il y a des possibilités pour eux de poursuivre leurs études là-dedans. Par exemple, si l'école est toujours jusqu'à 14 ans, mais quelqu'un qui veut se lancer de la couture ou autre, il a quand même des possibilités.
Pour revenir à la ville d'Orléans, est-ce que selon vous, on fait assez pour les habitants de la ville? Pour les habitants.
Alors là, non, pas tellement. Non, pas tellement, je pense pas. Je ne pense pas, parce que quand on regarde le nombre de demandes de logement qu'il y a par an à Orléans, et le temps qu'il faut attendre pour avoir un logement, moi, ça va faire 4 ans que je suis marié au mois de juillet cette année. J'ai fait une demande d'HLM tout de suite après être marié, c'est-à-dire au mois de juillet. J'attends encore. Évidemment, je ne voulais pas faire de parti pris ni être mauvaise langue. Mais enfin, souvent de fois, il y a des personnes qui n'attendent pas très longtemps. Tout ça dépend des relations et pas mal de choses.
Pour revenir aux événements de mai dernier...
Vous êtes venu.
Voulez-vous expliquer ce qui s'est passé?
ce qui s'est passé.
Enfin, vous avez parlé d'avoir fait grève.
Oui.
Comment est-ce que tout ça
a débuté?
Oui.
Disons que le mécontentement ouvrier était à son comble, évidemment. Et parce qu'il y avait déjà eu l'histoire de la TVA avant, que c'est le consommateur qui la supporte. C'est lui le dernier à recevoir la TVA, il ne peut pas la redonner à quelqu'un d'autre, il est obligé de la garder pour lui. Et la vie devenant de plus en plus chère, l'ouvrier s'est vraiment mis en colère, les syndicats ont prévenu plusieurs fois le gouvernement qu'il fallait quand même faire quelque chose, parce que le malaise était très profond. Et un beau jour, on a entendu une usine qui a commencé à faire grève. Alors après, ça a été une traînée de poudre. Moi, je vois, j'étais d'équipe d'après-midi à cette époque-là. Je suis arrivé presque à une heure et demie, évidemment. Puis, arrivant peut-être 200 mètres de l'usine, j'ai vu beaucoup de monde devant la porte. Mais j'ai compris tout de suite que c'était la grève. Enfin, je ne savais pas qu'elle allait durer si longtemps que ça, mais j'ai compris, avoir tout le monde devant la porte, que c'était la grève. Et j'ai su par la suite que le matin, il y avait eu réunion des délégués et ils avaient été voir le patron. En disant, en allant voir le chef du personnel, il lui a dit, monsieur, nous nous mettons en grève. Alors, monsieur leur a répliqué, c'est pas la peine, c'est déjà fait. Les ouvriers s'étaient arrêtés d'eux-mêmes. Et là, j'ai l'impression que pendant la grève, tout le temps que la grève a eu lieu, les syndicats ont été débordés. Parce que ce n'est pas... évidemment, ils avaient l'intention de faire la grève, de faire la grève, évidemment. Mais le mouvement est parti de l'ouvrier lui-même. Moi, je vois, c'était typique chez nous. Quand ils sont descendus de la réunion, tout le monde était arrêté. Alors qu'ils descendaient pour dire aux gars, bon, ben, arrêtez-vous, on est en grève. Et ils sont arrivés, ils sont retrouvés devant le fait accompli. Et ensuite, ils ont essayé de la canaliser, la grève. Ils ont essayé de reprendre les choses en main. Mais ils n'ont jamais pu les reprendre en main. Parce que ça a été tellement rapide, tout le monde était tellement furieux que le syndicat, ils essayaient de calmer les gens, laissez-nous faire, c'est nous vos représentants. Au début, les représentants, ils étaient au même rang que tout le monde. Ils étaient en grève, c'était tout. Alors après, ils ont essayé de canaliser, ils ont essayé de reprendre les choses en main, mais dire qu'ils ont vraiment contrôlé la grève, ce n'est pas vrai. Et de là à les dire, comme certaines personnes l'ont dit, on était des révolutionnaires, on était des ceci, on était des cela, que c'était une grève politique. Alors là, moi, j'affirme que non, ce n'est pas une grève politique. Parce que si on appelle une grève politique se battre pour pouvoir défendre le beefsteak de sa femme et de son enfant, si on trouve ça de la politique, alors à ce moment, nous faisons tous de la politique. Tout le temps, à longueur de journée, on fait de la politique. Il y a peut-être certains éléments, par exemple chez les étudiants, parce que c'est là que ça, qu'on a trouvé, soi-disant, le plus de politique. Mais chez l'ouvrier, il n'y a jamais eu de politique au départ de la grève. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certains éléments qui ont essayé d'en profiter pour semer un petit peu la panique, mais enfin, disons que ces éléments ont été vite repérés et puis ils ont été mis à l'index.
Et du côté des étudiants, qu'est-ce qui...
Mais du côté des étudiants, alors là, c'est beaucoup plus délicat. Parce que j'approuve la grève des étudiants au départ. C'était normal, il fallait des réformes. Et ça, c'est tout à fait logique, il fallait des réformes. Alors, ils ont fait grève, c'est très bien. Enfin, ils ont manifesté, c'est très bien jusqu'à un certain point. Parce que de là, aller casser des voitures, arracher des pavés et tout, j'estime que là, ça déborde le cadre. Et vers la fin de la grève des étudiants, ben à ce moment-là, je pense, moi, personnellement, que c'était politique. Parce qu'à ce moment-là, je pense que les étudiants, les vrais, ceux qui ont vraiment l'intention de travailler, ils avaient manifesté, ils avaient fait grève, ils avaient manifesté pour faire voir qu'ils voulaient une réforme. Et puis quand on leur a dit il y aura des réformes, ils ont peut-être cru ou pas cru, ça je ne sais pas. Mais enfin, toujours est-il qu'ils ont arrêté. Oui. Et moi je pense que c'est après les mouvements de gauche, de droite, les extrémistes et tout ce qui s'ensuit, et les catangués comme ils disaient, qui eux ont continué à semer la panique. Et là je n'ai plus approuvé à ce moment-là. À ce moment-là, j'approuve plus.
Quelques questions d'ordre général sur la politique, si vous voulez bien.
j'en fais pas de politique. Je préférerais pas me prononcer.
Bon, alors j'allais vous demander, lorsque vous votez pour un député, est-ce que vous attendez de lui?
Est-ce que j'attends de lui? Beaucoup de choses. qui en principe n'arrive jamais.
Ah bon.
Non, c'est vrai, c'est une chose que j'ai remarqué. Souvent de fois, pendant la campagne électorale, votez pour moi, vous allez voir, ça va être ceci, ça va être formidable. Et puis une fois qu'on a voté pour lui, on attend toujours. Les trois quarts du temps, cela ne se fait pas.
Pourquoi est-ce qu'il y a deux tours dans les élections nationales ?
Pourquoi il y a deux tours dans les élections nationales ? Parce que disons que c'est la Constitution qui est comme ça. C'est-à-dire qu'au premier tour, il faut que vous ayez la majorité plus une. Vous voyez, par exemple, c'est une supposition. Hein. Vous avez 100 personnes qui votent.
Oui.
Et vous êtes deux à vous présenter. Pour passer au premier tour, il faut que vous ayez 50 voix, c'est-à-dire la moitié, plus une voix, c'est-à-dire 51 voix, pour être élu au premier tour. Et au deuxième, ça c'est la majorité absolue, je crois qu'on appelle ça la majorité absolue. Et au deuxième tour, c'est la majorité relative, c'est-à-dire que celui-là, c'est celui-là qui a le plus de voix. Si par exemple, il y en a un qui en a 35 et l'autre qui n'en a que 28, parce qu'il y a eu des abstentions, c'est celui-là qui en a 35 qui passe. Il n'a pas la majorité plus une, mais au deuxième tour, c'est celui-là qui a le plus de voix qui passe.
Et comment est-ce qu'on décide son vote la seconde fois ?
Comment ça ?
Eh bien, il y a deux tours d'élection.
Mm-hmm.
On se révise des fois.
Ah, oui, évidemment, ça peut se produire selon ceux qui les députés qui restent en lice, évidemment.
Oui.
Mais enfin, quand on a une idée bien conçue au départ, qu'on a analysée, parce qu'au départ, il ne faut pas dire, je vote pour lui, et puis c'est tout. Et dire, après quand il passe pas, alors là on se dit, mince, j'avais pas pensé qu'il passerait pas, alors pour qui je vais voter? Je pense qu'au départ, il faut avoir une idée bien précise de ce que l'on veut faire, de pour qui l'on veut voter. Envisager l'éventualité qu'il sera éliminé au premier tour. Bon, alors envisager l'éventualité de voter pour un autre.
Oui.
Ne pas être indécis au deuxième tour. Parce que souvent de fois, les indécis au deuxième tour... Ils vont à la catastrophe parce qu'ils votent pour quelqu'un qui pense que peut-être pourra faire quelque chose. Il ne faut pas qu'il pense peut-être, il faut qu'il soit sûr.
Oui.
Évidemment, souvent, une fois on vote, on est sûr de ce qu'il va faire, et puis total, on se rend compte qu'on s'est trompé.
Oui. Quelle est la différence entre la droite et la gauche en France?
La différence entre la droite et la gauche. Disons entre le gouvernement et l'opposition, quoi, pour être plus précis.
Si vous voulez.
Le gouvernement, c'est la droite, évidemment, c'est le parti du président de la République, M. Charles de Gaulle, et l'opposition, c'est tous ceux qui sont contre. Voilà la différence. Alors après, vous avez, entre vraiment ces deux tendances, vous avez les modérés, vous avez les extrémistes de droite, vous avez les extrémistes de gauche, vous avez les centristes, enfin, il y a tellement de partis politiques que si vraiment on ne fait pas attention, on n'arrive plus à savoir où donner de la tête. Moi, j'estime qu'il y en a trop, d'ailleurs. Il ne devrait y en avoir que, par exemple, un ou deux. Par exemple, comme chez vous, il y en a trois, je pense, les travaillistes, les libéraux, et puis les conservateurs. Mais j'estime que là, ça va. Mais chez nous, alors, vous avez les communistes, vous avez les démocrates, vous avez les centristes, vous avez les républicains, vous avez l'UNR, et ça passe encore. Alors, vraiment... Quoiqu'en ce moment, ils sont en train d'essayer de fonder vraiment qu'un parti de la gauche. Alors là, ce sera très difficile. Alors très délicat. Je ne pense pas que ce soit encore pour demain.
Est-ce que les différences entre les classes sont très marquées à Orléans ?
Assez.
Oui.
Assez marquées. Quoique maintenant, parce qu'Orléans, c'est une ville qui est encore très bourgeoise. C'est très bourgeois, Orléans. Évidemment, maintenant, ça tend à devenir plus ouvrier, évidemment, avec la décentralisation et puis tous les emplois nouveaux qui se créent, l'ouvrier arrive en masse. Alors évidemment, la bourgeoisie commence à disparaître, mais enfin, il y a quand même une certaine distinction entre les deux.
À quoi reconnaissez-vous un bourgeois ?
Le bourgeois, de toute façon, on le reconnaît, disons peut-être pas au point de vue vestimentaire, quoique c'est déjà un point de repère, mais enfin, disons à sa façon de se comporter.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que vous ne le verrez jamais se promener dans un endroit où il sait qu'il y a des ouvriers. Par exemple, dans un café où il sait qu'il y a beaucoup d'ouvriers, où ses relations ne seront pas parmi le milieu ouvrier. Dans les jeunes peut-être, mais enfin, je parle des gens déjà d'âge moyen. La distinction est bien marquée, évidemment, dans les jeunes, ça tend à disparaître. Parce qu'évidemment, ils se trouvent plus en contact, si on veut, avec des ouvriers. Par exemple, les étudiants bourgeois, ben, ils se trouvent en contact avec des étudiants de souche ouvrière.
Oui.
Donc, ils tendent à se démocratiser, si on veut.
Oui. Est-ce qu'on peut passer d'une classe à l'autre?
Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que vous voyez, un ouvrier qui va avoir de la chance, vraiment de la chance, ou qui va arriver par son travail, ça sera un arriviste, ça sera jamais un bourgeois, parce qu'il n'aura pas son père ou sa mère, c'est pas quelqu'un qui était très connu dans la région pour avoir tenu par exemple un commerce ou ceci ou cela, il sera considéré comme un arriviste. On l'acceptera parce qu'on sera obligé de l'accepter, cette personne-là.
Oui.
Mais enfin, disons qu'elle ne fera jamais partie de la bourgeoisie.
Et est-ce que les différences entre les classes ont tendance à s'augmenter ou...
Non, elles ont tendance à diminuer. Enfin, disons dans les classes moyennes. Vous voyez, dans les classes moyennes. Par exemple, un épicier ou quelqu'un comme ça, bon, ben, il se rapprochera beaucoup plus de l'ouvrier que par exemple des avocats ou des avoués, des gens qui sont quand même d'une autre condition. Alors là, la différence, elle joue quand même. Vous avez quand même des bourgeois qui sont assez compréhensifs par la force des choses. Mais c'est tout, ça ne va pas plus loin.
Oui.
Ça ne va pas plus loin.
C'était la fin d'une première série de questions. Oh non, pas tout à fait, parce que j'aimerais aussi vous poser certaines questions. Un étranger qui veut venir en France pour apprendre le français, dans quelle région est-ce qu'il doit aller, d'après vous ?
Pour vraiment bien apprendre le français.
Oui.
Ben, disons que maintenant c'est un peu partout, quoi.
Oui.
Un peu partout, parce que vous avez des écoles partout, vous avez des collèges partout, dans tous les coins de France.
Oui.
Enfin, une chose que l'on m'a toujours dit, et je crois que c'est vrai, que c'est dans la région de Touraine que l'on parle le mieux le français.
Et dans une ville en particulier?
Ben, oui, dans les villes, on peut l'apprendre dans les campagnes, mais alors c'est difficile parce que vous avez les gens du pays, lui il va apprendre le français, l'instituteur va lui apprendre le français comme il doit être appris. Alors seulement quand il va se trouver au contact des gens du pays, il va plus rien comprendre parce que les gens vont parler leur patois régional, quoi. C'est du patois, ils n'en parlent pas trop, mais en fait ils le mélangent avec le français, puis lui il va pas comprendre.
Oui.
Alors, tandis que dans les villes, malgré tout, bon, les patois n'existent pratiquement pas.
Et pourquoi la Touraine?
Mais parce que je pense que c'est la région où on parle le mieux le français. C'est une région qui est assez riche au point de vue histoire. Et je crois que c'est là où on trouve le moins d'accent. Enfin, que le français est le plus pur, si vous voyez. C'est là qu'on parle le français le mieux. Par exemple, on parle le français partout, mais enfin, disons que des fois, on fait des fautes de français, que l'on met des articles où ils ne devraient pas être, qu'on déplace des mots, pour dire, comme on dit chez nous, un peu partout, mettre la charrue avant les bœufs.
Oui.
Vous voyez, c'est par exemple déplacer des mots.
Et est-ce qu'il y a des endroits qu'il devrait éviter?
Pour parler le français?
Oui.
Oh, non, je pense pas.
Ou des gens qui vaudraient mieux qu'ils fréquentent ou qu'ils ne fréquentent pas?
Alors ben oui, parce que si... enfin, quoi que dans les villes, tous les gens arrivent à parler le français sans mettre d'accent, quoi. Quoique, évidemment, il y a toujours un accent selon la région où l'on se trouve. Moi, je vois chez nous, nous avons un accent. Dans le Midi, il y a un accent. En Bretagne, il y a une façon de parler. Dans le Nord, c'est une autre. En Alsace, c'est une autre. Mais je pense que c'est la région centre, c'est-à-dire l'Orléanais, la Touraine, par là, que l'on parle le mieux le français. Enfin, disons que l'accent est moins visible.
Oui.
Alors là, on a plus de facilité.
Quelles sont les difficultés de la langue française pour l'étranger?
La difficulté de la langue française pour un étranger, c'est sa diversité. Elle est très très étendue. Et évidemment, les mots sont assez difficiles parce que pour la bonne raison que vous avez des mots qui veulent dire plusieurs choses. Par exemple, un seau. Bon, ben, un seau, ça peut être un seau pour aller tirer de l'eau. Ça peut être un seau, quelqu'un qui n'est pas très intelligent. Ça peut être un saut, l'action de sauter. Ça peut être un saut, c'est-à-dire le cachet que l'on appose sur un papier. Alors, vous voyez, le même mot veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Alors, évidemment, quelqu'un qui apprend le français, on lui apprend ce mot-là, mais on va lui dire ce mot-là veut dire ceci. Alors, il suffit qu'il tombe sur quelqu'un qui lui dise le même mot, mais qui ne veut pas dire la même chose, lui, il va pas comprendre. C'est ça, c'est parce que la langue française est très étendue et que les mots ont plusieurs significations.
Est-ce qu'on parle bien à Orléans ?
Oui, assez.
Il y a des gens qui parlent moins bien, peut-être ?
Oui.
À part des étrangers ?
Oui, évidemment. Mais oui, il y a des gens qui parlent moins bien. Disons que c'est les gens qui sont venus des alentours. De la Beauce, de la Sologne, enfin de la campagne si on veut, parce que la campagne, vous avez un patois dans toutes les campagnes de France, vous avez un patois qui diffère. Alors évidemment, souvent de fois, c'est même pour la personne qui parle le français, des fois il n'arrive pas à comprendre ce que cette personne l'a dit. Mais pour si les gens de toute façon, ces gens des campagnes, quand ils arrivent en ville, ils arrivent à perdre leur patois et puis à parler le français, mais en fait il reste toujours une pointe d'accent ou quelques mots que c'est plus fort qu'eux qui reviennent dans cette façon de parler.
Oui. Est-ce que c'est une langue difficile alors pour vous, le français?
Pour le français, c'est pas tellement difficile parce que pour vraiment bien parler le français, il faut des années de travail pour vraiment bien apprendre à parler le français. Parce que le français est une langue qui est très diversifiée. Mais pour le français, évidemment, ça pose des fois des problèmes, comme pour l'étranger au début, si vous voulez. Pour celui-là qui commence à apprendre le français, pour le jeune. Parce qu'évidemment, lui, il se retrouve au même stade de l'étranger, parce que l'étranger ne parle pas un mot de français, il parle sa langue natale, d'accord, mais le jeune, lui, il parle pas du tout le français. Alors, quand on lui apprend le français, c'est très difficile, les mots, ça a du mal à rentrer, les verbes, les conjugaisons, ça, c'est affreux, c'est très délicat, parce qu'alors, il y a des façons de conjuguer les verbes, de les placer, de mettre tel verbe là, avec l'orthographe qu'il faut, c'est très difficile.
Quelqu'un est de passage à Orléans. Il vous demande ce qu'il pourrait faire pendant son séjour et qu'est-ce que vous lui dites?
Ah ben alors là, on aborde un peu le tourisme, quoi.
Oui.
Ben, il y a pas mal de choses à voir. D'abord, il y a une région, la Sologne, qui est très jolie. C'est la plus belle région que je trouve dans la région, si on veut, parce que vous avez la Sologne d'un côté, vous avez la Beauce de l'autre. Bon, ben la Beauce, c'est le grenier de la France, ça c'est très connu, c'est là où il y a la plus grosse production de blé, de maïs, ça c'est des champs énormes, très étendus. Puis de l'autre côté, c'est la Sologne, c'est les forêts comme la forêt d'Orléans, des forêts, la forêt de Chambord, vous avez énormément de pins, de fougères, c'est très pittoresque. Puis c'est des grandes réserves de chasse, vous avez énormément de... c'est très giboyeux, vous avez des lièvres, des lapins, vous avez des sangliers à Chambord, qui est une chasse gardée, entre parenthèses, pour Monsieur le Président de la République. Vous avez des cerfs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de chasses. Alors, il peut aller visiter la Sologne, certains endroits de Sologne, ou alors visiter les châteaux de la Loire, Blois, Chambord, Courcheverny, Lude, dans la Sarthe, pas mal de choses. On peut faire la tournée des musées d'Orléans, visiter la cathédrale, pas mal de choses.
Trois questions à figurer. Quelqu'un frappe à la porte de cette pièce. Qu'est-ce que vous lui dites?
Qu'est-ce que vous lui dites? Alors, moi, je vais vous répondre une chose. Je suis méfiant. Pour la bonne raison que je ne sais pas si cela se passe couramment chez vous. Mais alors, chez nous, des gens représentant des compagnies d'assurance, il y en a une quantité industrielle.
Oui.
Alors, quand on frappe chez vous, si vous dites entrer, la personne entre et puis commence à vous parler d'assurance et pour le faire sortir, on aura toutes les peines du monde. Autrement, je ne suis pas méfiant, j'ouvre assez facilement ma porte, oui, monsieur ou madame, vous désirez, ou qu'est-ce que vous voulez.
Oui.
Évidemment, s'il commence à me parler d'assurance, la porte se referme tout de suite. Mais enfin, par cette exception, je suis assez sociable.
Vous avez des amis à la maison, vous les invitez à prendre quelque chose. Qu'est-ce que vous leur dites?
Je les invite à prendre quelque chose, enfin une boisson ou autre.
Est-ce que vous risquez de...
Ben, tout ça dépend à l'heure qu'ils arrivent.
Oui.
S'ils arrivent le matin, je leur propose un café. S'ils arrivent au moment de l'apéritif, l'apéritif. S'ils arrivent après de manger, un petit digestif, un petit café à la rigueur.
Quel mot employez-vous pour...
Qu'est-ce que je vous offre ou qu'est-ce que vous prenez ou qu'est-ce que je vous sers ou... Je sais pas, moi. Enfin, vous voyez, il y a déjà plusieurs verbes pour dire que l'on veut... leur offrir quelque chose.
Oui. Et troisièmement, comment est-ce qu'on fait une omelette chez vous ?
Comment qu'on fait une omelette ? Alors là, il y a plusieurs façons de faire les omelettes. Moi, je vais vous parler des omelettes que je connais. Vous avez l'omelette aux œufs carrément, c'est-à-dire que vous mettez du beurre ou de l'huile dans votre poêle, quoi. Vous cassez les œufs dans une assiette, vous les battez bien. Vous les épicez, sel, poivre, à la rigueur vous pouvez mettre un petit peu d'appétit ou de persil si on veut, puis vous faites cuire ça dans la poêle. Ou alors vous avez l'omelette aux pommes de terre, vous pelez des pommes de terre, vous les faites assez cuire dans la poêle et puis vous mettez les œufs que vous avez battus toujours dans une assiette ou dans un bol, ça n'a aucune importance, que vous mettez avec les pommes de terre. Ou alors vous avez l'omelette aux croutons, c'est-à-dire les croutons c'est des morceaux de pain. Vous voyez, des morceaux de pain qui restent du pain rassis, c'est-à-dire du pain qui n'est pas de la journée, si vous voulez. Alors, ces morceaux de pain, vous faites revenir un petit peu dans du beurre. Alors, évidemment, ils se ramollissent et puis après, ils durcissent et puis vous mettez vos œufs là-dedans. Ou alors, vous avez l'omelette au jambon, c'est-à-dire avec des petits morceaux de jambon. Ou alors, l'omelette au lard avec des petits morceaux de lard. Il y a pas mal d'omelettes. Vous avez l'omelette aux pommes, vous avez une quantité presque industrielle d'omelettes, de façon de faire des omelettes.
Merci beaucoup. Eh bien, ça, c'était vraiment la fin de la première série, mais si je vous fatigue pas trop, on va passer à des questions qui portent plus spécialement sur le français.
Oui,
sur la langue.
On va essayer.
Est-ce que vous avez un dictionnaire chez vous?
Oui.
Des encyclopédies aussi, une encyclopédie?
Non, je n'ai pas d'encyclopédie. Disons qu'en ce moment, j'achète un livre. En ce moment, j'achète un livre qui paraît toutes les semaines.
C'est intéressant, ça.
C'est l'Alpha. C'est-à-dire, ça a été lancé par... c'est le million que ça s'appelle. Ça vient de l'encyclopédie Alpha. Oui. C'est un livre qui parle de tous les pays du monde. De l'Europe, de l'Afrique, de l'Océanie, de l'Amérique du Nord, du Sud. Et ce livre-là, qui paraît toutes les semaines pour un prix modique... nous parle de la géographie de tous les pays, de l'histoire, de la culture, du folklore, du cinéma, des artistes, des peintres, tout ce qui concerne ce pays, la production industrielle, la production agricole, la vie sociale, tout, très complet comme livre. Oui, c'est très bien.
Comme dictionnaire, c'est le Larousse que vous allez voir maintenant ?
Oui, c'est le Larousse classique.
Un volume ?
Oui, un volume.
Où est-ce que vous le mettez ? Est-ce que vous le gardez ?
Dans mon armoire, pour être sûr que mon fils ne touchera pas et pour être sûr de l'avoir sous la main.
Et la série d'encyclopédie aussi, probablement ?
Oui, ça je le garde en ce moment là-haut parce que... Je le relis assez souvent.
Oui. Le Larousse, vous l'avez depuis quand ?
C'est-à-dire que le Larousse, il n'est pas à moi, il est à ma femme. Enfin, maintenant, il est à moi, quoi. Ma femme l'a eu pour ses 18 ans, donc comme elle en a 24, ça fait 6 ans.
Oui. L'encyclopédie, vous l'achetez ?
Oui, je l'achète toutes les semaines, oui.
Pas un représentant.
Non, c'est-à-dire qu'il y a eu une publicité fracassante au début. J'ai acheté le premier numéro pour voir vraiment ce que... c'est-à-dire que je ne l'ai pas acheté. C'est un ami à mon voisin qui l'avait acheté. Il l'a fait voir à mon voisin qui a été enthousiasmé. Un jour, il me l'a fait voir. Moi, j'ai trouvé ça que c'était formidable. Et depuis, je l'achète. Ça doit paraître, je crois, en 275 volumes, je crois.
Oui.
Représentant tous les pays du globe, quoi.
Pour le dictionnaire, si vous avez encore eu le temps de vous en servir, qu'est-ce qui s'en sert le plus souvent ?
Enfin, disons que je m'en sers, c'est moi qui m'en sers le plus souvent, parce que, étant donné que enfin, ma femme, comme correspondance, fait la correspondance avec la famille, alors donc ça ne pose pas de problème pour le dictionnaire, mais enfin, moi, des fois, je m'en sers pour faire mes cours, mes cours par correspondance que je fais en ce moment, pour éviter de me tromper dans certains verbes ou pour trouver un mot pour ne pas toujours répéter le même.
Ça fait combien de fois déjà que vous avez eu l'occasion de vous y référer?
Oh ben, pratiquement à tous les cours. Alors comme j'ai 10 cours que je n'ai pas tout à fait fini, mais je m'en sers je ne sais pas combien de fois par cours, assez souvent quoi. Surtout, c'est pas tellement pour l'orthographe, parce que l'orthographe ça va à peu près, mais enfin disons pour trouver des mots correspondants ou voulant vraiment dire ce que je veux dire.
Oui. Est-ce que vous avez d'autres livres, genre art d'écrire, de parler, art de savoir vivre?
Non. Non.
Vous auriez trouvé que ce serait utile?
Ah oui, évidemment, tout est utile. À part le livre de cuisine, quoi. qui est pratiquement indispensable. Enfin, c'est-à-dire que j'ai un livre pour qui résume un peu tout. Vous voyez, ça parle de la décoration d'une pièce, l'ameublement, la façon de présenter les plats, la façon de mettre une table, de placer les invités. Enfin, c'est un résumé. Vous voyez, c'est un livre qui nous avait été offert à l'occasion de notre mariage. Il y a tout, il y a quelques recettes de cuisine, il y a comment servir les vins, l'aménagement d'une maison, les assurances pour une maison, enfin, c'est assez complet.
Oui.
C'est assez complet.
Le titre
Attendez. Mais c'est le mariage. Ça, c'est un livre qui avait été offert par notre photographe. Alors, j'arrive pour savoir l'édition, je ne sais pas.
Est-ce que vous faites des mots croisés?
Non.
Qu'est-ce que vous pensez du franglais? Des mots genre snapper, self-service
Alors là, c'est délicat. Ça me rappelle une histoire de Fernand Reynaud que je possède à la maison.
Oui.
Lui, il ne comprend plus parce qu'il se rend compte qu'en France, on emploie des snack bars et puis un autre genre aussi dans le genre de snack bar, on ne me rappelle plus. Et alors lui, il ne comprend pas qu'on appelle un café un snack bar, alors qu'à l'étranger, quand il va à l'étranger, il voit marqué restaurant. Lui, là vraiment, il ne comprend pas, il dit restaurant français. Mais enfin, je pense que ça a quand même une utilité, par exemple, de marquer snack bar dans certains endroits où on peut manger à toute heure, parce que maintenant, le tourisme et puis les gens qui se déplacent très souvent sont contents de... Enfin, disons que ça les aide souvent de fois pour arriver à manger. Ils voient le snack, bon, ben ils savent que là, ils peuvent manger.
Oui. Est-ce qu'il y a des différences, selon vous, dans les façons de parler des gens de milieux sociaux différents?
Oui, évidemment. La personne, peut-être pas le bourgeois, parce que lui... il a une façon de parler assez spéciale, mais enfin disons par exemple que des gens de profession libérale comme les avocats, tout ça, ils parlent très bien parce que c'est leur métier.
Oui.
Mais enfin disons qu'ils ont une instruction déjà au départ qui est déjà meilleure. Alors évidemment, le parler entre, par exemple, je sais pas, un avoué ou un notaire et puis un ouvrier est très différent, parce que l'ouvrier, lui, disons qu'il ne recherche pas ses mots, il parle comme ça lui vient, il dit des mots qui lui viennent à l'esprit sans essayer de chercher à faire des phrases mirobolantes ou pleines d'astuces. Vous voyez, lui, c'est vraiment, il parle comme il le pense.
Oui.
C'est pas la personne astucieuse, vous voyez.
Est-ce que les gens parlent de mieux en mieux, de plus en plus mal? Il n'y a pas de changement, pensez-vous?
Bah, les gens arrivent à parler mieux quand même, parce qu'ils ont tellement d'ouvrages à lire qui sont assez bien écrits, quoique pas tous, évidemment. Et puis, ils sont en contact avec des gens qui parlent bien. Et puis, leur enfant parle très souvent de fois en continuant leurs études. Ils semblent des fois un peu gênés de parler, de si mal parler devant leurs enfants. Alors, ils essayent d'améliorer leur vocabulaire.
Parmi les personnes que vous connaissez, quelle est celle qui parle le mieux le français?
Parmi les personnes que je connais.
Oui, pour sa profession, je veux dire.
Moi, mes relations sont assez ouvrières, évidemment, mais enfin, j'avais un camarade, maintenant il est parti, il travaillait chez les Américains, parce qu'il y avait des Américains à Orléans dans le temps, et il était programmeur IBM chez eux. Maintenant il est parti en Allemagne, parce que lui c'était vraiment un gars qu'ils avaient besoin, parce qu'il était bilingue, il était français-anglais, quoi. Enfin il parlait très bien l'anglais, alors il est parti, il les a suivis en Allemagne. Alors lui, il avait un parler, je ne veux pas dire délicat, mais enfin, un parler très correct. Il parlait bien le français.
Oui. Il y a en France un organisme qui décide si oui ou non un mot ou une expression est en français.
Oui, oui, ça doit être... Je pense que c'est l'Académie française.
Vous trouvez que c'est utile?
Utile... Oui et non, c'est-à-dire parce que vous avez des mots qui sont très ouvriers, si vous voulez, qui sont employés dans tous les milieux ouvriers, mais que cet organisme-là ne reconnaît pas parce que c'est pas un mot élégant, ou c'est un mot qui risque de choquer, ou qui n'est pas convenant, si vous voulez. Alors c'est eux, en définitive, qui tranchent. C'est eux qui, d'ailleurs, font ces éditions du Larousse, qui ajoutent des mots, tout le temps. Alors, par exemple, ils prennent un mot, ils l'analysent, ils le tournent, ils le retournent dans tous les sens, ils en discutent, ça dure d'ailleurs assez longtemps, et puis en définitive, ils arrivent à le mettre ou à l'éliminer.
Oui. Alors, ça, son utilité.
Oui, quand même, oui, parce qu'il faut quand même éliminer certains mots, il faut quand même que le français reste quand même... une langue, une bonne langue, quoi.
Est-ce qu'il faudrait obliger les journalistes et les speakers à la télévision
à bien parler français? Oui, alors là, absolument. Absolument, parce que c'est des gens que l'on... disons qu'à la radio, on les voit pas, et qu'à la télé, on les voit, mais c'est des gens qui ont une audition très vaste dans tout le pays, aussi bien des gens qui parlent mal le français que des gens qui le parlent très bien. Alors évidemment, s'ils se permettent des fantaisies, qu'ils font des laïus ou autres, alors là, évidemment, c'est presque le scandale. Parce que il y a des gens qui ne leur pardonnent pas de parler le français de cette façon-là.
Oui.
Alors je pense qu'il faut qu'ils apprennent bien le français déjà au départ.
Oui. Est-ce que la langue française est aussi bien enseignée maintenant dans les écoles qu'autrefois?
Disons, elle est beaucoup mieux. Moi, je trouve qu'elle est mieux enseignée maintenant qu'avant.
Oui. Ça tient à quoi?
Disons que ça tient à une certaine évolution.
Oui.
Que les programmes sont mieux conçus, et puis que l'enseignement, il est plus réparti. Il est moins groupé, donc on peut prendre plus le temps pour enseigner une matière. Et le français fait partie de cette matière.
Oui. Et vous-même, à l'école, dans quelle matière étiez-vous le plus fort?
Le français, justement. Le français. Le français après les maths. Mais surtout le français, d'abord. Le français grand-mère, quoi. Parce que la grand-mère, c'est le français, par le fait.
Oui.
C'est l'analyse des verbes.
Oui. Est-ce que vous avez habituellement quelque chose pour écrire sur vous?
En principe, j'ai un stylo, oui.
Oui.
Un stylo bille, quoi. Pas un stylo plume, parce que maintenant, ça tend à disparaître, quoi que c'est... Le stylo plume, c'est... On n'écrit pas à quelqu'un d'important avec un stylo bille, ça fait mauvais effet, quoi. Il vaut mieux écrire avec un stylo plume.
Vous possédez un stylo plume?
Non, justement pas.
Vous en avez possédé?
Ah oui, évidemment, oui.
Alors, suite à quelles circonstances?
Ben, disons que j'en ai possédé avant, parce que tout le monde avait des stylos plumes, tandis que maintenant, le stylo bille, c'est devenu l'outil courant d'écriture, vous voyez, c'est avec un stylo bille, tout le monde écrit avec un stylo bille maintenant, pour dans n'importe quelle circonstance, enfin, quoique, par exemple, si on écrit au maire ou à une personnalité, il vaut mieux quand même écrire au stylo plume.
Oui.
Alors à ce moment, on se débrouille pour en avoir...
Vous avez un carnet sur vous, un bloc en général?
Cela m'arrive, enfin, j'ai un bloc. J'ai un bloc sur moi, mais souvent de fois, quand je change d'habit ou par exemple quand je sors de l'atelier, il m'arrive de l'oublier, mais j'ai toujours du papier sur moi.
Oui. Quand est-ce que vous avez écrit pour la dernière fois?
Quand est-ce que j'ai écrit pour la dernière fois? Ben, c'est vendredi dernier.
Oui. Et c'était pourquoi?
Ben, c'est pour mes cours.
Et vous avez besoin d'écrire pour votre travail?
Mais pour mon travail, absolument pas. C'est un compte vite fait. On a X pièces à faire par jour, on fait X pièces, le chef d'équipe y passe, il dit bon, on dit bon, ou alors on dit ben, on en a fait moins, puis c'est tout, mais enfin on compte parce que c'est facile à compter, on en a tant de pièces dans un plateau, on sait qu'il en faut tant par jour, on sait que dans un plateau il y en a tant, on sait qu'on a tant de plateaux à faire, et puis ça y est. Oui. Donc on n'a pas besoin de faire de calcul.
Est-il important selon vous d'avoir une belle écriture?
Ah oui, c'est très important. Parce que je suis beaucoup gêné.
Ah.
J'écris très mal. On écrit mal, c'est une habitude qu'on prend quand on commence à faire des études un petit peu secondaires, parce qu'on a une heure de cours avec un professeur, une heure avec l'autre, alors le temps qu'il explique, ça prend déjà pas mal de temps. Après, il faut recopier vite avant la fin de l'heure qu'on a de cours avec cette personne-là pour vite passer dans l'autre classe. Alors là, on écrit presque plus, on griffonne, quoi, si on veut, par le fait. Oui. Et puis alors après, ben, ça reste.
Oui.
Si déjà au départ, on n'avait pas une très bonne écriture, et ben après, ça reste.
Oui.
Alors ça devient une habitude. On écrit, on fait mal ses lettres, autre chose, et puis souvent, on a des difficultés à se relire.
Oui. Et pourquoi faudrait-il après? Écriture.
Mais parce que disons que une belle écriture, ça sert beaucoup. Vous voyez, on vous demande souvent de fois pour une place ne pas se présenter et écrire.
Ah oui.
Donc par conséquent, oui. Si on dit écrire, c'est que il va y avoir certainement une étude graphologique qui détermine le caractère, enfin, d'une façon générale. Oui. Mais enfin, disons que quelqu'un qui a une belle écriture, ça donne déjà une bonne impression.
Oui.
Ça donne une bonne impression que si c'est quelqu'un qui écrit mal, que la personne est déjà obligée de déchiffrer ce que la personne lui a écrit, alors là, évidemment, il commence déjà à avoir une opinion autre que celle oui. qu'il devrait avoir. Même si vous êtes quelqu'un d'intelligent, que vous faites l'affaire pour la place, il hésitera déjà. Si vous êtes deux à avoir les mêmes qualifications pour cette place, c'est celui-là qui écrira le mieux a des chances de passer que vous ne passerez pas.
Oui. Est-ce qu'il est important d'avoir un orthographe?
Ah oui, évidemment, oui. L'orthographe, c'est très important. Tout le monde fait des fautes, mais enfin, il faut quand même éviter d'en faire, parce que c'est toujours pareil. C'est la présentation qui compte. Vous faites une lettre, bon, ben, on regarde d'abord l'écriture, et puis l'orthographe. Si votre orthographe est lamentable, ça fait mauvais effet, c'est toujours pareil.
Est-ce que vous seriez favorable à une réforme de l'orthographe?
Dans quel sens?
Il y a des règles et puis des exceptions, ou bien des conjugaisons des verbes. Difficile.
Alors là je ne peux pas me prononcer parce que là c'est vraiment c'est vraiment pas mon rayon, si vous voulez. Moi, ce que j'ai appris, je l'ai appris. Maintenant, je pense pas. Enfin, ça serait peut-être utile, mais enfin, dans quel sens qu'il la ferait cette réforme, vous voyez?
Ah.
Elle serait utile, mais dans un sens. Parce qu'il ne s'agit pas à ce moment de supprimer toutes les règles et toutes ces exceptions, parce qu'alors toute la langue française serait à recommencer. Ben, il faut une réforme parce que c'est quand même, je pense que c'est quand même assez difficile.
Je crois que vous avez dit que votre femme écrit les lettres aux amis et aux familles, aux deux familles.
Oui, enfin surtout à ma famille parce que ça, presque toute sa famille est là, alors donc la correspondance devient presque inutile, quoi.
Oui. Et pourquoi elle plutôt que vous?
Ben, parce que ma femme écrit bien. Et que moi j'écris mal.
Point de vue, à quel point de vue bien et mal? Orthographe, français.
Ben disons qu'elle a une très belle écriture. Elle a une très belle écriture.
Et pour les papiers administratifs?
C'est encore ma femme qui les écrit. Ah. Mais enfin, disons que c'est moi qui fais le brouillon.
Ah bon? La feuille d'impôt, sécurité, etc.
Ah oui, alors, enfin, quoi que les feuilles de sécurité, quand c'est juste une feuille de maladie, bon, ben, je la remplis, ça n'a aucune importance,
oui.
Mais enfin, la feuille d'impôt, disons que je la calcule, comme nous avons au minimum deux feuilles d'impôt, j'en prends une, je l'écris, je fais les opérations qu'il y a à faire et tout, puis ma femme la recopie.
Oui, je vois. Combien de lettres écrivez-vous en moyenne, par mois?
Ma femme ou moi?
Vous, personnellement?
Moi, jamais.
Est-ce que vous conservez des lettres personnelles qu'on vous envoie?
Non. D'abord, j'en reçois très peu, et puis si je reçois une lettre personnelle, soit que c'est une lettre administrative ou venant de, par exemple, quand je reçois une lettre des chefs postaux, bon, ben, c'est adressé à mon nom parce que le compte est à mon nom, mais enfin, ça n'a aucune importance, c'est une lettre personnelle, si on veut, c'est administratif, mais en fait, des lettres personnelles de personnes qui peuvent m'écrire, soit un camarade ou une camarade, j'en reçois très peu, très peu, très peu.
Si vous arrivez d'écrire à un camarade, est-ce que vous faites un brouillon?
Non.
Vous faites attention aux fautes d'orthographe?
Ah ben oui, évidemment.
Est-ce que vous relisez les lettres que vous écrivez?
Ah, toujours, oui. Toujours, toujours.
Et vous écrivez avec un stylo bille?
Oui, oui, oui.
pour les amis, en tout cas.
Oui, oui, oui.
Et sur quel type de papier?
Oh ben, des grandes feuilles blanches avec une ligne comme ça. Vous voyez, pas du papier quadrillé, juste vous voyez, des lignes comme ça, horizontales.
Ça ne vous est pas encore arrivé, mais ça peut vous arriver un jour d'écrire à l'école de votre enfant. Vous ferez la même chose?
Ah non, j'écrirai au stylo plume en ce moment. Parce que c'est quand même... assez important.
Oui. Et vous ferez un brouillon à ce moment-là?
Ah oui, oui, évidemment. Oui, parce que quand on écrit à un ami ou à un camarade, bon, ben, je veux pas dire qu'on s'en moque, mais en fait, il peut arriver qu'on ait oublié une phrase et puis qu'on la rajoute ailleurs, qu'elle n'a pas tellement sa place, mais ça, moi, je pense personnellement que ça n'a pas beaucoup d'importance, tandis que si vous écrivez à l'école, évidemment, il faut quand même placer ces phrases dans un certain ordre, on en revient toujours au français et faire attention aux fautes d'orthographe et tout.
Vous prenez le même papier, le même grand papier
Oui, oui.
Pour une lettre vraiment officielle, faites la même chose, faites un brouillon.
Ah oui, ah oui, ah oui.
Vous prenez un stylo plume aussi.
Oui, oui.
Est-ce que vos parents faisaient attention à la façon dont vous parliez?
Mais j'avais juste ma mère et j'ai presque toujours été en pension. Alors, vous savez, en pension, c'est... on ne fait pas tellement attention, quoi. Évidemment, si on se trouve à côté d'une personne qui nous garde, quoi, et qu'on parle mal, elle va nous faire la réflexion, quelquefois.
Oui.
Tout ça dépend des mots qu'on dit.
Oui. On ne prenait pas de sanction, de la manière dont vous parliez.
Non.
Tiens, on est à la fin de la deuxième histoire.
Déjà.
Là, je peux arrêter. Bien, monsieur, nous n'avons pas eu beaucoup de contact avec ce qui se passe à la campagne. Justement, vous venez d'une région peut-être un peu plus campagnarde que...
Oui, enfin, disons que je suis de la ville, mais enfin, que chez nous, c'est un pays essentiellement agricole.
Oui.
C'est-à-dire essentiellement campagnard. Oui. Alors, évidemment, y a une différence énorme de ce fait que, avec les abattements de zones et tout qui y a en ce moment... vous avez certaines régions en France qui sont vraiment déshéritées, que les gens des campagnes, je ne veux pas dire s'enfuient, mais s'en vont à une vitesse incroyable. Et alors à ce moment, c'est le dépeuplement des campagnes, et puis alors c'est l'engorgement des villes.
Oui.
Et je pense qu'il aurait dû être fait et qu'il devrait être fait quelque chose pour que les gens puissent rester chez eux, cultiver leurs terres sans être obligés de tout abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à survivre dans leur pays et qu'ils sont attachés à leurs terres et tout. Mais vu le contexte actuel, ils sont obligés de s'en aller.
Ce n'est pas le goût de la vie des villes qui les entraîne.
Non, c'est, disons que c'est une obligation de s'en aller s'ils veulent survivre. Oui. C'est une question de survie. Évidemment, certains jeunes préfèrent la ville qu'à la campagne. Ça, c'est certain, mais en fait, il y en a d'autres qui préfèrent la campagne. Alors, c'est justement ces gens-là qu'il faudrait aider, mettre les moyens nécessaires à leur disposition, au point de vue financier surtout, pour que ces gens-là puissent rester chez eux pour faire leur travail et faire le travail qui doit être fait à la campagne. Parce que si à ce moment il n'y a plus personne à les campagnes, on n'arrivera plus à pouvoir manger, ce ne sera pas possible. Si personne ne reste pour cultiver le blé ou le maïs ou faire l'élevage des bœufs, des vaches et tout, à ce moment-là, nous ne pourrons plus survivre, quoi.
Les exploitations sont mixtes dans votre région?
Mais...
C'est une région d'élevage ou...
Oui, c'est surtout une région d'élevage. Déjà, au point de vue géographique, c'est une région qui est très vallonnée. parce que c'est un des massifs les plus anciens qui existent. Alors, automatiquement, c'est une région d'élevage parce que le sol était très graniteux, donc il y a de la culture, si on veut. Évidemment, on a toujours des champs où sont cultivées des pommes de terre ou autres, mais enfin, disons que ce n'est pas une culture intensive comme dans la région ici, qui est très plate et qui s'y prête beaucoup. Là-bas, c'est surtout essentiellement l'élevage, l'élevage des bovins, tout ça, les chèvres, enfin, toutes les bêtes qui fournissent la viande pour se nourrir.
Oui.
Parce que la région, de ce côté-là, est très riche en pâturage.
Oui.
Alors, c'est pour ça que chez nous, c'est essentiellement agricole et surtout de l'élevage.
Oui. Et le niveau de vie des gens qui...
Alors là, le niveau de vie est très, très bas. Le niveau de vie est très, très bas. Les gens, une fois qu'ils ont acheté la semence pour faire, pour faire leur champ, et une fois qu'ils ont fait la récolte, eh bien, avec toute la peine qu'ils ont pris, l'argent qu'ils récupèrent ne paye pas la peine même qu'ils ont pris.
Ah.
Parce que les gens, pendant la saison des moissons, vers cette époque-là, quand ça va commencer vers le mois de juin, eh bien, et puis des semaines avant, comme à cette époque-là, eh bien, les gens le matin se lèvent à 5 heures du matin, le soir se couchent à 9 heures. Donc ça leur fait des journées de 12-17 heures à peu près. Et ils ne sont pas payés pour ces 17 heures. Ils font ces 17 heures pour pouvoir cultiver, pour pouvoir produire. Donc l'argent que ramassent de leur production ne paye pas 17 heures de travail par jour, ce n'est pas possible.
Est-ce que leurs enfants ont les mêmes chances que les enfants de les villes ?
Au point de vue enseignement, maintenant, oui, ils arrivent à avoir à peu près les mêmes chances. Quoi qu'au vu conditions de vie, la vie à la campagne est beaucoup plus dure qu'en ville. Parce qu'à la campagne, un enfant qui est assez jeune, il participe à la marche familiale de l'entreprise, enfin de l'élevage et puis de la culture. Évidemment, il ne se lèvera peut-être pas à 5 heures, mais à 8 heures le matin, il partira au champ, il restera manger à midi sur place et puis il rentrera le soir vers 8-9 heures avec tout le monde.
Oui.
Donc déjà au départ, l'enfant est... Il prend le rythme de ce travail et puis souvent de fois par la suite, quand il se rend compte de ce que rapporte le travail qu'il a fourni et que sa famille a fourni, ben, peu à peu il se détache de la terre et puis évidemment il a certains contacts des fois par l'école ou autre avec des gens de la ville et évidemment ils arrivent à parler, ben, il y en a un qui dit, moi tu sais, moi je travaille 8 heures en usine, je gagne par exemple une supposition 60 000 francs. Eh bien, lui, il voit qu'il a travaillé 17 heures dans ta semaine et puis qu'il a peut-être 1000 francs la semaine, le dimanche ou 1500 francs pour sortir.
Oui.
Alors, à ce moment-là, vraiment, ça arrive à ce moment-là, le dégoûter de rester travailler à la campagne. Il préfère aller à la ville parce qu'il sait qu'il aura une vie plus douce.
Oui.
Et qu'il gagnera beaucoup plus.
Oui. Est-ce que... qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon vous, pour changer ces états de choses?
Ben pour changer cet état de choses, d'abord, il faudrait que, par exemple, quand on achète le blé, parce que quand la récolte est faite, les gens de la campagne la vendent. Donc il faudrait que ça leur soit acheté à un tarif supérieur.
Mmh.
Ensuite, que l'on élimine certaines taxes et impôts dont sont frappés ces gens-là.
Oui.
Parce que c'est surtout les taxes et les impôts qui brident tout le monde.
Oui.
Alors si on arrivait à diminuer ces taxes et ces impôts, si par exemple on leur donnait des conditions de travail meilleures,
oui.
Si on leur donnait des moyens plus à leur portée, c'est-à-dire des moyens beaucoup moins chers, ils arriveraient peut-être à ce moment-là à pouvoir rester chez eux.
Oui.
Parce qu'en ce moment, vous savez... chez nous, des tracteurs, il y en a, mais des grosses machines, il n'y en a pas beaucoup parce que ça revient horriblement cher. Les gens sont obligés de se grouper en coopérative pour réussir à louer ou des fois acheter, mais surtout à louer des machines pour pouvoir travailler. Alors évidemment, si on leur mettait des moyens appropriés, à ce moment-là, ils pourraient mieux arriver à se défendre et à ce moment-là, ils resteraient chez eux parce que... des jeunes, souvent de fois, s'en vont, disons que c'est un petit peu normal, mais souvent de fois, vous avez des personnes qui ont une quarantaine d'années, qui ont toujours vécu là depuis leurs parents et tout, et qui sont attachés à leur terre et à leur région, mais qui sont obligés de s'en aller parce qu'ils n'arrivent pas à payer les impôts sur la ferme dont ils s'occupent, ils n'arrivent pas à payer autre chose, ils ont les taxes de ceci, ils ont les impositions de cela, et à la fin du compte, ils se retrouvent avec le couteau sous la gorge.
Oui.
Alors donc, ces gens-là, il n'y a pas de problème, ils sont obligés de s'en aller de chez eux. Et vous avez des régions, comme la Lozère et autres, que c'est des régions où rien ne pousse, que ce n'est que du caillou, que ce n'est pas possible de faire de l'élevage, que ce n'est pas possible de faire de la culture. Alors vous avez des villages qui comptaient peut-être 400 ou 500 habitants, maintenant ils sont à peine 150, tout le monde est parti. Alors moi je pense que là il faudrait implanter des industries.
Oui.
Des industries qui ne demandent qui prendraient leur main d'œuvre sur place, étant donné qu'il y a quand même des gens, et qui permettraient à ces gens-là de pouvoir rester chez eux, de ne pas être obligés de partir et de tout laisser derrière eux, leurs souvenirs, leur maison et tout.
Oui.
Là, dans certaines régions, il faudrait une très grosse industrialisation. La main d'œuvre, elle se trouverait sur place. Mmh. Et je pense qu'au point de vue réadaptation, reclassification, il n'y aurait pas de problème.
L'économie française est une fois, je crois, je ne suis pas spécialiste, un peu basée sur l'agriculture à un moment donné.
Oui, elle est assez basée sur l'agriculture et l'élevage, parce que la France est quand même un pays au point de vue géographique qui est très, très divers, enfin qui est très montagneux si on veut. Et alors vous avez des industries qui s'implantent maintenant, mais... il faut tenir compte aussi qu'il faut quand même qu'il y ait de l'élevage et puis de la production, de la culture.
Oui.
Parce que s'il n'y a plus de culture, ce n'est plus possible.
Oui.
Alors maintenant, l'industrialisation se fait de plus en plus.
Mmh.
Et il faudrait qu'il y ait vraiment une décentralisation encore plus grande qu'en ce moment.
Oui.
Et c'est pour ça que le gouvernement est en train d'étudier la régionalisation. Alors, la régionalisation, ça serait, disons que les pouvoirs de la région seraient accrus. C'est-à-dire que certaines perceptions de taxes et d'impôts, au lieu de revenir directement à l'État pour être redistribuées après, s'arrêteraient à la région.
Ça présenterait une solution, peut-être ?
Peut-être.
Oui.
Tout ça dépend comment la région sera gérée.
Ah oui.
C'est toujours pareil, c'est là le problème.
Est-ce que l'entrée de la France en la création du marché commun a eu son effet.
Mais elle a eu son effet, mais disons que l'effet produit sur les gens de la campagne n'a pas été celui qui était escompté.
Ah.
Les gens de la campagne refusent pas systématiquement, mais enfin demanderaient est-ce que certains prix soient relevés.
Mmh.
Et puis ça pose quand même des difficultés avec d'autres pays qui sont aussi essentiellement agricoles, qui eux voudraient bien pouvoir faire partir leurs produits, mais pas trop cher, alors que les Français, à ce moment-là, et comme ils ont beaucoup de produits, ben c'est pareil, ils voulaient les faire partir, mais à plus cher.
Oui.
Alors évidemment, ça pose des problèmes, ça fait quelques frottements.
Oui.